Les 10 commandements par Roderick C. Meredith. La société moderne est en conflit au sujet des 10 commandements. Ceux-ci ont-ils été annulés par ordonnance divine ou par l'esprit humain qui s'est tourné vers la connaissance scientifique? Devrait-on les afficher dans les lieux publics ou les réserver à l'église? Sont-ils une charge pour des illuminés ou une bénédiction pour ceux qui obéissent à Dieu? Le roi David a dit, je cite, « Combien j'aime ta loi !» Et il a ajouté que la loi est parfaite. L'apôtre Paul qualifie les commandements de saints, justes et bons. Jésus les a respectés, magnifiés, et nous ordonne d'obéir aux 10 commandements. Mais pour la plupart des gens, les 10 commandements demeurent une énigme qui n'a jamais été résolue. Cette brochure explique en détail cette loi vivante, inexorable, qui sera bientôt le fondement du monde de demain, paisible, prospère et joyeux. Table des matières, page 3, préface, les clés pour comprendre, page 7, le premier commandement, page 11, le deuxième commandement, page 16, le troisième commandement, page 21, le quatrième commandement, page 26, le cinquième commandement, page 30, le sixième commandement, page 35, le septième commandement, page 40, le huitième commandement, page 43, le neuvième commandement, page 47, le dixième commandement, et page 51, les nouveaux commandements de Jésus. Édition 1.1, avril 2012, copyright 2004, Living Church of God, tout droit réservé. The Ten Commandments, traduit de l'anglais sous la surveillance de Dibar, appartient. Cette brochure n'est pas à vendre, elle est envoyée gratuitement sur simple demande à titre de service éducatif rendu au public. Préface. Il y a plus de 40 ans, j'ai eu le privilège d'écrire la première édition de cette brochure, Les 10 commandements. Elle fut mise sous forme de brochure à partir d'une série d'articles et fut envoyée à des centaines de milliers de personnes. Elle fut imprimée durant plus de 10 ans. Mais aujourd'hui, je l'ai remise à jour pour les téléspectateurs, les auditeurs et les abonnés au Tomorrow's World, même si elle ressemble beaucoup à la première brochure offerte il y a plus de 40 ans. Cela n'est pas une surprise, car elle traite des lois divines immuables. Dieu a dit, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Malachi 3, verset 6. Même les érudits laïcs reconnaissent que les tout premiers chrétiens fondaient leur vie sur la grande loi spirituelle de Dieu, c'est-à-dire les 10 commandements. Lorsqu'il disait le Seigneur Jésus-Christ, il reconnaissait que le mot Seigneur signifiait le chef, celui à qui vous obéissez. Jésus a constamment rappelé qu'ils étaient essentiels dans nos rapports avec lui. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Luc 6 au verset 46. J'espère et je prie que vous étudierez cette brochure attentivement et que vous en viendrez à apprécier la loi divine. Cette même loi qui sera appliquée au cours du millénium toute proche et qui est une bénédiction pour les individus, les familles ainsi que les nations qui l'observeront en suivant l'exemple parfait de notre Sauveur Jésus-Christ. Les clés pour comprendre. Notre époque est connue comme étant celle où les lois sont peu respectées. Le crime et la violence s'accroissent à un rythme effarant parce qu'on fait fi de la loi ou de l'autorité établie. Qu'il s'agisse de celle de Dieu ou de celle des hommes, sur la scène internationale, les nations vivent constamment dans la crainte et elles savent fort bien que les prétendues garanties et traités de paix ne valent même pas le papier sur lequel ils ont été rédigés. Il n'y a pas de loi, pas de respect pour l'autorité de par le monde. C'est l'environnement dans lequel nous évoluons. La source de la loi. Les hommes ont perdu tout respect pour la loi parce qu'ils ont oublié quelle est la véritable source de toute loi et de toute autorité. La Bible dit, un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Jacques 4, verset 12. Ce législateur n'est autre que le Dieu Tout-Puissant, dans leur quête d'une prétendue sérénité ou d'une religion satisfaisante. Les hommes ont totalement oublié le Dieu suprême qui gouverne l'univers. Il n'est donc pas surprenant que les jeunes d'aujourd'hui, dont certains seront les dirigeants de demain, aient une attitude hostile à la loi. Feu Dr. Rufus Van Glein Smith, chancelier de l'Université du Sud de la Californie, a déclaré « Je n'ai pas d'objection à ce que l'on insiste sur l'importance de la science comme on le fait actuellement, mais nous payons pour aider les écoles qui agissent du 1er septembre au 30 juin, comme s'il n'y avait pas de Dieu. C'est nous qui traduisons. Dr. Von Kleinsmith fit remarquer que l'absence de valeur morale chez les jeunes est la conséquence directe d'un tel enseignement. Lorsqu'on ignore Dieu, il n'y a plus de normes réelles de conduite. Il en résulte dérèglement, misère et chaos spirituel. À l'heure actuelle, la tendance de presque toutes les dominations religieuses est d'essayer de moderniser ou de démocratiser Dieu. Elles cherchent à se débarrasser de l'autorité que Dieu a sur nous tous, qui sommes ses créatures. Après avoir fait son Dieu favori à son image, l'humanité ne peut plus épouvrer de craintes respectueuses envers lui. Elle ne le craint pas et veut encore moins obéir à une créature issue de son imagination. Cependant, le message de Jésus-Christ se rapportait au Dieu suprême qui a créé cette terre. Ce Dieu bénit ceux qui obéissent à ses lois, mais il châtie ceux qui désobéissent. Le Jésus-Christ de la Bible a toujours prêché l'évangile du royaume de Dieu. Marc 1 au verset 14 et Luc 4 au verset 43. Autrement dit, il prêcha la bonne nouvelle du règne divin, du gouvernement de Dieu. Il a dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle » Marc 1 au verset 15. Avant que le sang répandu par Jésus-Christ n'efface nos transgressions, nous devons nous repentir de nos péchés, sincèrement croire en lui et l'accepter en tant que notre sauveur. Mais nous repentir de quoi? Du péché, bien sûr. Qu'est-ce que le péché? Quoi qu'en disent les idées contradictoires communément admises par un grand nombre de dénominations religieuses, la Bible déclare sans ambiguïté que le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 3 au verset 4. La transgression de la loi divine spirituelle, les 10 commandements. Voilà, en peu de mots, la définition de ce qu'est le péché. Avant que Dieu ne pardonne nos péchés, nous devons premièrement nous repentir d'avoir transgressé la loi divine. Nous devons apprendre à craindre et à respecter Dieu, en tant que notre roi et maître, et en tant que souverain suprême de tout l'univers. Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, a écrit sous l'inspiration divine. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Sagesse. Proverbe 1, verset 7. Cette crainte n'est pas une crainte envers sa personne, mais un respect profond, une vénération intense à l'égard de l'autorité de Dieu, de sa puissance, de sa sagesse et de son amour. L'homme est incomplet sans la foi en Dieu, séparé de lui. Il est sans but, sa vie est vide, frustrante et confuse. Le moyen d'échapper à ce vide et à cette confusion peut sembler simple et banal de prime abord. Mais il est réel et efficace. Il faut cesser d'adorer de faux dieux et revenir au Dieu de la Bible, celui de la création, le Dieu qui gouverne l'univers. Pour résumer, la voie qui mène à l'accomplissement du désir intense de l'homme de jouir d'une vie heureuse. Salomon a écrit « Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. » Ecclésiaste 12 au verset 15. L'homme est frustré et incomplet sans ce contrat vivant avec Dieu, c'est-à-dire sans marcher selon sa voie et sans observer les commandements. L'obéissance aux commandements divins peut procurer la paix, la sérénité et la joie à toutes les nations et à tous les peuples de la terre. Telle est la réponse à tous nos problèmes, qu'ils soient d'ordre individuel ou collectif. C'est la façon de vivre que Jésus-Christ enseignera lorsqu'il viendra éduquer ce monde. Michée 4 au verset 2. Comprenez-vous réellement les commandements divins? Le roi David était un homme selon le cœur de l'Éternel. Acte 13 au verset 22. Après sa résurrection, il gouvernera toute la nation d'Israël au cours du millénium. Ézéchiel 37 au verset 24. Lorsque le Christ amènera la paix ici-bas, David a écrit « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Psaume 119 au verset 97. Il étudiait et méditait les lois divines. Il apprit comment les appliquer dans toutes les circonstances de sa vie, et cela lui permit d'avoir de la sagesse. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Verset 98. La loi divine montra à David la voie à suivre, une manière de vivre. Il dit encore, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Verset 105. Tout au long de ce psaume, David déclare combien il aime la loi et l'utilise en tant que guide dans sa vie. Faites-vous de même? Probablement pas. On vous a peut-être enseigné et vous avez peut-être cru que les lois divines avaient été abolies, parce que vous ne vous êtes pas rendu compte qu'elles révèlent la nature et le caractère de Dieu lui-même. Vous serez saints car je suis saint, a dit Dieu. 1 Pierre 1 au verset 16. Les véritables chrétiens, le petit troupeau, sont décrits comme étant ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Apocalypse 12 au verset 17. Dieu donne la description suivante du caractère des saints. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14 au verset 12. Si vous désirez faire partie des saints de Dieu qui échapperont aux sept derniers fléaux, il faudra que vous possédiez cette foi vivante, la foi obéissante au Dieu suprême à travers Jésus-Christ qui vit sa vie en nous. Il sera nécessaire d'apprendre et d'observer la loi divine spirituelle telle qu'elle nous est révélée dans les 10 commandements. À cette fin, étudiez réellement cette brochure, examinez chaque passage biblique mentionné et vivez selon cette sainte loi spirituelle. Le Dieu suprême d'Israël. Afin de bien comprendre les 10 commandements et d'en saisir l'importance, examinons brièvement dans quelles circonstances ils furent donnés. Rappelons-nous que Moïse et les Israélites avaient conservé la connaissance que leur Dieu était le Créateur des cieux et de la terre, celui qui avait provoqué le déluge du temps de Noé, leur ancêtre. Or le Dieu d'Israël venait de les délivrer de la servitude d'Égypte en réalisant des miracles fantastiques. Il les avait libérés d'Égypte en les faisant traverser le lit de la mer Rouge, dont les flots s'érigeaient à leur droite et à leur gauche comme deux grandes murailles liquides. Exode 14. Dieu s'occupa d'eux et leur rappela ses lois qu'ils avaient en partie oubliées. Avant même qu'ils eussent atteint le mont Sinaï, il fit cesser tout doute dans leur esprit quant au jour qui était son sabbat, en faisant une série de miracles. Exode 16. D'après Exode 18, Moïse jugeait déjà le peuple selon les lois et les ordonnances de Dieu. Verset 16. Arrivé au mont Sinaï, Dieu proposa non pas de leur donner une nouvelle loi, mais de conclure un pacte ou accord avec eux. Ils allaient être son peuple et lui-même serait leur Dieu s'ils obéissaient fidèlement à ses lois, à ses ordonnances et à ses statuts. Puisque les 10 commandements représentaient et représentent toujours la loi divine spirituelle et fondamentale. Romains 7 au verset 14. Il constituait une partie de cet accord conclu entre Dieu et Israël. Longtemps avant, le Sinaï, Dieu avait particulièrement béni Abraham, le père des croyants. Romains 4 au verset 11, version parole vivante. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Genèse 26 au verset 5. Il est donc certain qu'Abraham connaissait et obéissait aux 10 commandements. Du fait qu'il s'agissait de ses lois saintes, Dieu les donna avec un grand déploiement de puissance pour les distinguer du reste de l'Alliance. Il les écrivit de sa propre main. Veuillez noter le contexte du 19e chapitre de l'Exode. Dieu ordonna à son peuple de se purifier et d'être prêt pour le 3e jour lorsqu'il descendrait vers eux. Versets 10 et 11. Le 3e jour, au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Verset 16. Lorsque Dieu proclama de sa propre voix les 10 commandements, il manifesta sa puissance, tandis qu'il descendait dans toute sa gloire sur le mont Sinaï. La fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Verset 18. Dans ce décor de gloire, de majesté et de puissance, il proclama les 10 commandements au peuple qui tremblait de terreur en bas de la montagne. Sa voix puissante dut littéralement secouer ces gens-là, alors qu'elle se répercutait à travers le pays comme le bruit du tonnerre. Psaume 104 au verset 7. Le premier commandement. C'est ainsi que Dieu commença à énoncer les 10 commandements, à révéler à nouveau les lois de la vie qui ont pour conséquence la réussite, le bonheur et la paix. À notre époque où prédomine le raisonnement humain et l'agnosticisme, il est important de remarquer que le Tout-Puissant parle d'abord, non pas de la fraternité humaine, mais de l'obéissance et du culte à l'égard de Dieu, le Créateur et le dirigeant des cieux et de la terre, le Dieu personnel de ceux qui le servent et qui lui obéissent. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Exode 20, versets 1 à 3. C'était le premier et le plus grand des commandements. Étudiez-le avec soin, méditez-le comme le fit David. « Je suis l'Éternel ton Dieu » est une phrase qui révèle plus que ce que l'on pourrait croire à première vue. Le « Je » qui parlait avec une puissance fantastique est le grand créateur des cieux et de la terre. De par sa façon même de se manifester, il démontra sa puissance en envoyant le tonnerre et des éclairs et en secouant littéralement le mont Sinaï. Le premier commandement est vous. Après avoir vu avec quelle puissance et avec quel pouvoir Dieu s'est manifesté au mont Sinaï lorsqu'il proclama les 10 commandements, examinons maintenant comment chacun d'eux s'applique à nous, personnellement. Si vous êtes chrétien, vous devez vous rappeler que Jésus-Christ, le fondateur du christianisme, a dit que vous devez vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Grâce à son aide, vous devez vivre selon les commandements divins afin d'obtenir la vie éternelle. Matthieu 19, au verset 17. Comment, dans ce cas, le premier commandement s'applique-t-il à vous? Le Créateur déclare « Je suis l'Éternel, ton Dieu ». Est-il réellement votre Dieu que vous servez et à qui vous obéissez? Vous êtes-vous forgé d'autres dieux? Rendez-vous un culte selon les traditions des hommes au sujet desquels Jésus a dit qu'elle finirait par vous faire adorer Dieu en vain. Marc 7 au verset 7. Ce sont des considérations auxquelles vous devriez penser. Dieu a fait sortir les chrétiens du pays d'Égypte, c'est-à-dire de la servitude. Tout au long de la Bible, l'Égypte est utilisée comme représentation symbolique du péché. Ceux qui ne sont pas convertis sont soumis à leur propre convoitise et à l'esclavage organisé du système païen de ce monde. Lorsqu'une personne est réellement convertie, elle sort de son plein gré de cette servitude. Vous devez savoir si vous êtes réellement sorti des fausses traditions et des voies de ce monde, et si vous vous êtes repenti de vos péchés personnels. Dieu ordonne, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Avez-vous mis quelqu'un ou quelque chose à la place de Dieu? Votre temps, vos intérêts, le travail que vous faites sont-ils à vos yeux plus importants que le véritable Dieu? Quelle idole avez-vous placé entre lui et vous, entre l'étude de sa parole et le fait de vivre selon elle? Dieu dit, les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Psaume 19 au verset 2. En maint endroit, la Bible déclare que Dieu est le créateur de l'univers. C'est lui qui donne la vie et le souffle à toutes les créatures. Genèse 1. Pensez-vous réellement à lui? Lui rendez-vous un culte en tant que votre créateur qui vous donne l'air que vous respirez? Vous le devriez, car cela fait partie du culte qu'on doit rendre au véritable Dieu, en excluant tous les faux dieux que l'on pourrait avoir. De nos jours, la plus grande séduction n'est ni le communisme ni l'athéisme, mais la doctrine païenne de l'évolution. Elle représente une tentative en vue d'expliquer la création sans le Créateur. Elle nie le véritable Dieu, sa nature et son poste. Et pourtant, elle constitue le fondement majeur de l'éducation de ce monde. La sagesse humaine n'est que folie devant Dieu. 1 Corinthiens 1 au verset 20. Dans la Bible, Dieu ne se révèle pas uniquement en tant que notre Créateur, mais encore comme celui qui maintient et qui gouverne sa création, intervenant dans les affaires de ses serviteurs pour les guider, les bénir et les délivrer, si nécessaire. David a dit, « Je t'aime, ô Éternel ma force, Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Psaume 18 au verset 2 et 3. David fit appel à lui maintes et maintes fois pour qu'il intervienne, le délivre de situations délicates ou de diverses calamités. Vous adressez-vous à Dieu lorsque de telles choses se produisent dans votre vie, ou vous fiez-vous à votre propre force et à des moyens purement humains? Le dessein divin. Jésus a dit que lorsque nous prions, nous devons nous adresser à Dieu en tant que notre Père. Matthieu 6 au verset 9, qui veille sur ses enfants, les bénit et les protège. Dieu châtie également tous ceux qu'il aime. Hébreux 12 au verset 6, il est en effet le Père de l'humanité. En créant l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Genèse 1 au verset 26. L'homme a été fait à l'image divine, il a reçu certaines responsabilités, comme par exemple la domination sur toutes les créatures qui peuplent la terre. Certains pouvoirs limités lui ont été octroyés pour faire ou pour créer certaines choses. Dieu a pour dessein que nous devenions finalement ses enfants spirituels. 1 Jean 3 au verset 2. Un jour l'homme doit naître de l'esprit, être composé d'esprit. Jean 3 au verset 6. Il fera partie de la famille divine. Mais pour cela, nous devons vaincre notre nature humaine au cours de cette vie. Nous devons apprendre à observer les lois divines grâce à l'aide du Saint-Esprit. C'est ainsi que nous naîtrons un jour dans sa famille et dans son royaume. Pour en savoir davantage, demandez-nous notre brochure gratuite intitulée « Votre ultime destinée ». Et pourtant, même en cela, la science et la civilisation cherchent à rivaliser avec Dieu. Elles deviennent de faux dieux. La science tente de donner à l'homme une puissance qui excède de loin ses propres capacités à manipuler de telles forces. Comme l'ancien président américain Eisenhower l'a dit dans son discours d'investiture, je cite, « La science semble nous avoir octroyé comme don final le pouvoir de rayer la vie humaine de cette planète. De nos jours, les scientifiques s'acharnent à tenter de coloniser les cieux, tandis que sur Terre, notre civilisation persiste à croire que l'homme, en fin de compte, est le juge de ce qui est bien ou mal. Que nous nous en rendions compte ou non, cette attitude charnelle, cette attitude de rejet de Dieu, imprègne chacune des phases et chacun des aspects de la civilisation actuelle. Quel Dieu servez-vous ? La plupart des gens qui se contentent d'aller plus ou moins régulièrement à l'église et de considérer leur religion comme un nom de soi ne savent pas en réalité ce qu'est le véritable culte. Ils ne se rendent pas compte que leur religion devrait affecter chacune de leurs pensées, de leurs paroles et de leurs actions tout au long de leur vie. Dans tout ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites, ou bien vous servez Dieu, ou bien vous servez votre propre convoitise, ou encore Satan le diable. L'apôtre Paul a écrit sous l'inspiration divine. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Romains 6 au verset 16. Il n'y a pas de position intermédiaire. Soit vous cherchez à plaire à Dieu en le servant continuellement et en obéissant à ses lois, soit vous obéissez à votre propre convoitise. À quoi passez-vous votre temps? Car votre temps, c'est votre vie. La Bible nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens 5 au verset 16. Combien de temps consacrez-vous à l'étude de la parole et des lois divines en les méditant comme le fit David? Pendant combien de temps chaque jour priez-vous Dieu avec ferveur? Combien de temps passez-vous à parler de la Bible en famille, à écrire un mot d'encouragement à quelqu'un et à vous intéresser aux autres? Pour la plupart de ceux qui se disent chrétiens, la religion occupe simplement un petit coin de leur existence. Malheureusement, le jour viendra où ils se rendront compte que cette sorte de religion n'est qu'une fausse religion et un faux culte. Quelle est la chose la plus importante pour vous? Lorsque quelqu'un posa cette question à Jésus-Christ, notre Sauveur, il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. » Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, versets 37 à 40. La destinée de toutes les nations et de tous les individus dépend de ces deux commandements. ceux qui sont disposés à obéir à ces deux commandements, tels que ceux-ci sont développés tout au long de la Bible, seront bénis. Sinon, ils seront maudits et malheureux. Chacune des prophéties écrites comme une nation montre que Dieu savait d'avance que cette dernière désobéirait en se détournant des lois et des commandements divins. Ce sont des lois vivantes, au même titre que la loi de l'apesanteur qui dirige le monde où nous vivons. Aimer Dieu par-dessus tout. Jésus a dit que le plus grand commandement consiste à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Nous devons adorer et servir Dieu de tout notre être. Chaque fois que vous pensez à quelque chose de beau ou de magnifique, chaque fois que vous entendez parler ou que vous le voyez, vous devriez penser à Dieu. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Jacques 1 au verset 17. Du fait que vous l'aimiez, que vous savez que sa joie est juste et que vous l'adorez réellement, vous devriez méditer chaque jour ses lois et sa parole. Vous devriez étudier régulièrement la Bible afin de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous devriez le prier chaque jour de tout votre cœur comme Jésus le fit en nous donnant un exemple. Chaque fois que vous constatez que Dieu vous ordonne dans sa parole de faire quelque chose, vous devriez dire « Oui Seigneur » et non pas discuter en cherchant à raisonner ou à éluder la question comme tant de prétendus chrétiens le font aujourd'hui. Sachant que Dieu vous a créé et que votre vie lui appartient, vous devriez offrir votre corps à Dieu en tant que sacrifice vivant, comme l'apôtre Paul l'a écrit. Romains 12 au verset 1. Vous devriez servir Dieu et lui obéir de tout votre être, d'un cœur bien disposé, afin de vous préparer personnellement et afin de faire avancer l'œuvre de propagation du message de l'établissement du gouvernement de Dieu, lequel finira par établir une paix réelle sur la terre. Votre attitude devrait toujours être celle de Jésus-Christ, votre exemple qui a dit en donnant sa vie, « Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Luc 22, au verset 42. Voilà ce que signifie la véritable adoration. C'est ainsi qu'il faut observer le premier et le plus grand des commandements. Le deuxième commandement. Dans le sermon ou la prédiction qu'il donna sur la montagne, Jésus déclara, « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, même les plus petits commandements, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Matthieu 5 au verset 19. Tout au long de son message, Jésus expose, explique et développe les 10 commandements. Il montre que cette loi spirituelle est une loi vivante, comme la loi de la pesanteur. Lorsqu'on la transgresse, on en subit les conséquences. Nous avons déjà constaté que lorsque les individus et les nations violent le premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », Exode 20, verset 3, il s'attire un châtiment inévitable, sous la forme de souffrance et de misère. Lorsqu'ils se détournent du but de la vie, ils se soustraient aux lois qui leur procureraient le bonheur, la paix et la joie. Ceux qui sont coupés de Dieu sont malheureux. Ils éprouvent des sentiments de vide et de frustration. Que ce soit à cause de la guerre ou par suite de maladies ou d'accidents, le sort ultime de tous ceux qui sont séparés de Dieu est une mort ignominieuse, sans espoir de vie éternelle. Romains 6 au verset 23 et Apocalypse 21 au verset 8. Ce que déclare le deuxième commandement. Il manque quelque chose à l'homme, car l'homme s'est éloigné lui-même du véritable culte à rendre au véritable Dieu. Le premier commandement déclare qu'il faut uniquement adorer Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20 au verset 3. Le deuxième commandement nous indique les pièges à éviter dans notre culte à Dieu, afin d'être continuellement béni, ainsi que notre progéniture. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui garde mes commandements. Exode 20, au verset 4 à 6. L'esprit naturel de l'homme réclame quelque chose pour l'aider dans le culte qu'il rend à Dieu. Il désire un objet physique pour lui rappeler le Dieu invisible, une aide quelconque pour adorer. Et pourtant, c'est exactement ce que ce commandement interdit. Jésus a dit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Jean 4, au verset 23. Seuls les véritables adorateurs sont capables d'adorer le Père en esprit et en vérité. Les autres essaient d'adorer sous une forme quelconque, mais parce qu'ils limitent leur culte à une conception erronée de Dieu, leur adoration se fait dans une large mesure en vain. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Verset 24. Lorsqu'on a recours à une représentation quelconque de Dieu, on nie ce qui est essentiel en lui. En effet, Dieu est l'essence de toute puissance, de toute sagesse et de tout amour. Il est infini. Lorsqu'une personne érige une image physique ou mentale de Dieu, elle imite automatiquement dans sa pensée et dans son culte le Dieu qui ne peut pas être limité. Le fondement de l'idolâtrie. Après avoir réitéré les 10 commandements, Dieu mit Israël en garde contre toute forme d'idolâtrie. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 26, au verset 1. Il a toujours été contre toute forme d'idole ou d'image utilisée pour le culte, précisant que Dieu ne condamne pas l'art ou la sculpture, mais le fait de placer un tableau, une image ou une représentation quelconque afin de se prosterner devant ces choses. Dans l'ordre initial qui se trouve dans Exode 20, versets 4 à 6, il ne condamne pas nécessairement chaque tableau et chaque statue, mais l'adoration devant ces objets. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Ainsi, c'est le mauvais usage de l'art ou de la sculpture en tant que forme de culte ou d'accessoire de culte que Dieu condamne. Le fondement de toute idolâtrie est que l'homme, entêté et rebelle, refuse de se soumettre à Dieu et de l'adorer comme il convient. Ne connaissant pas Dieu et n'ayant pas son esprit, il croit avoir besoin d'une représentation quelconque pour l'aider à adorer l'idée qu'il se fait de son Créateur. Ce deuxième commandement ne parle pas directement de l'adoration d'une idole. Cela est déjà interdit par le premier commandement. Il défend surtout l'utilisation d'une représentation physique quelconque pour adorer le Dieu invisible. Un individu vraiment converti connaît Dieu. Celui qui connaît réellement Dieu comme un père et qui est continuellement en communion avec lui n'a nul besoin d'un tableau ou d'une image pour l'aider à prier. Si tel n'est pas le cas, on ne connaît pas Dieu et on manque manifestement de Saint-Esprit. Pour adorer Dieu en esprit, nous devons avoir le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8 au verset 9. Dieu ne donne son Saint-Esprit qu'après une repentance sincère précédant le baptême et seulement à ceux qui lui obéissent. Acte 2 au verset 38 et Acte 5 au verset 32. Au cours des âges, très peu d'individus se sont véritablement soumis à Dieu pour lui obéir, pour marcher avec lui, pour le laisser guider chaque pensée, chaque parole et chaque action. En conséquence, nombreux sont ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il leur apparaît éloigné, irréel, nébuleux. C'est pour cette raison qu'ils ont besoin de quelque chose, afin de les aider à réaliser que Dieu existe et qu'il écoute leurs prières. Les tableaux représentant Jésus. Des milliers de prétendus chrétiens font usage d'images ou de tableaux censés représenter Jésus dans le culte qu'ils lui vouent. Ils en accrochent même au mur de leurs habitations. Que dit la Bible au sujet de ces représentations? Étant donné que Jésus-Christ est Dieu, Hébreux 1 au verset 8, toute représentation de sa personne est déjà une violation du deuxième commandement. En outre, Pour ceux qui pourraient éprouver le désir de raisonner ou de discuter à ce sujet, les prétendus portraits du Christ n'ont même pas la moindre ressemblance avec son aspect réel. Jésus, alors qu'il était dans la chair, était juif, Hébreux 7 au verset 14. Les traits qui apparaissent dans les tableaux, lesquels censément le représentent, n'ont en général rien de juif. L'apôtre Paul écrit « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux ?» 1 Corinthiens 11, verset 14. Et pourtant, presque tous les tableaux représentent Jésus comme un homme aux longs cheveux, ayant de doux traits féminins et des yeux dont l'expression sentimentale est pitoyable. Ce n'est pas là le Christ dont la Bible parle. Il ne fait aucun doute que Jésus avait un aspect viril. Il était charpentier et devait travailler à l'extérieur. Il passa la plus grande partie de son temps dehors, même au cours de son ministère. Vous pouvez donc constater que les crucifix, les tableaux et les représentations de Jésus sont en opposition directe avec la description qui est donnée de lui dans la Bible. Il donne à tout point de vue une fausse impression du véritable Jésus-Christ. Son visage devait être hâlé et son apparence n'était point efféminée. Ses cheveux étaient courts comme doivent l'être ceux d'un homme. Il n'avait pas de traits particulièrement beaux. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ésaïe 53 au verset 2. Jésus était un jeune juif normal et en bonne santé. Il était plein de sérieux et de conviction. Il prêchait avec force le message du royaume de Dieu. S'il nous arrivait à songer à son apparence, nous devrions penser tout au moins, en termes généraux, à celle qu'il a aujourd'hui. L'apôtre Jean le décrit dans Apocalypse 1, verset 14 à 16. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Le visage de Jésus brille maintenant d'un vif éclat et avec puissance. Nous autres humains, nous ne pourrions pas le regarder en face. Beaucoup de gens disent qu'ils n'adorent pas ces tableaux ou ces images. Il est possible qu'il en soit ainsi, mais il ne fait pas de doute que cette fausse représentation ou cette idée erronée du Christ leur vient souvent à l'esprit lorsqu'ils pensent à lui ou lorsqu'ils prient. Ces faux tableaux et ces statues s'interposent entre eux et le Christ. Il le sépare de ceux qui l'adorent. L'utilisation de telles images ou de représentations revient à violer le deuxième commandement. Elle limite en même temps notre conception du Christ vivant, qui est assis à l'heure actuelle dans sa gloire à la droite de Dieu le Père, au ciel, le visage brillant comme le soleil dans toute sa force. Une vaine adoration. L'une des formes les plus courantes de l'idolâtrie moderne consiste à faire une sorte d'idole d'une église ou de la société dans laquelle on vit. Pour beaucoup de gens, la société, avec ses impératifs, ses coutumes et ses traditions, devient un dieu au sens propre du terme. Beaucoup ont peur d'agir différemment de la masse ou d'être considérés comme un original. Ils estiment devoir se conformer aux voies du monde, mais Dieu nous ordonne « Ne vous conformez pas au siècle, le monde présent !» Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12 au verset 2. Pour ceux qui pensent que les voies et les pratiques de la société sont bonnes, il doit sembler très difficile d'obéir à ce commandement. La Bible nous montre que bon nombre de gens, à l'époque de Jésus, aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Jean 12 au verset 43. Si vous obéissez aveuglément aux coutumes et aux traditions de votre famille, de votre église ou de la société, à la place des ordres divins énoncés dans les Écritures, vous êtes coupable d'idolâtrie. Ce groupe ou cette institution devient votre idole en se substituant au véritable Dieu. Même le cérémonial de certains services religieux, si beau et raffiné soit-il, peut être un sujet d'idolâtrie s'il fait appel à nos sens physiques et s'il se substitue au véritable culte de Dieu en esprit. La Bible mentionne que, de nos jours, des gens ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. 2 Timothée 3 au verset 5. Le Créateur suprême, le Souverain, invisible et éternel, nous dit « Comment l'adorer ? Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Ésaïe 66 au verset 2. Nous devons adorer Dieu en nous adressant directement à lui, avec un cœur humble et bien disposé. Nous devons étudier sa parole et la laisser nous corriger en tremblant devant son autorité. Nous devons prier Dieu à genoux chaque jour et également en silence alors que nous vaquons à nos activités habituelles. Il faut en arriver à le connaître et à l'aimer comme notre Père, comme toute cette brochure l'explique. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 5 au verset 3. C'est de cette manière que vous aimerez et honorez sincèrement votre Créateur en vivant dans l'obéissance aux 10 commandements, comme Jésus l'a fait avant nous. À l'instar d'Enoch, de Noé et d'Abraham, un véritable chrétien a besoin d'apprendre à marcher avec Dieu, à lui céder complètement et à être en communion constante et croissante avec lui. S'il est guidé par le Saint-Esprit, il ne lui viendra même pas à l'idée d'envisager d'utiliser une statue, une idole ou un tableau en tant qu'aide pour prier ou pour adorer le souverain suprême de l'univers qui est en même temps notre Père céleste. Un avertissement solennel et une promesse. Dieu interdit la fabrication d'une image ou d'une idole qui le représente en déclarant. Je cite, « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Exode 20, versets 5 et 6. Du fait qu'il est notre Père et qu'il souhaite notre bien-être, Dieu est jaloux à notre sujet. Il n'autorise pas ses enfants pour leur propre bien à adorer de faux dieux. Si nous persistons à pratiquer une forme quelconque d'idolâtrie, Dieu dit que même nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants souffriront les conséquences de notre iniquité. Cette déclaration a bien des répercussions. Si dans notre culte, nous mettons une idole, une image ou quoi que ce soit à la place de Dieu, et si nous tombons sous l'influence de ce faux culte, alors non seulement nous nous ferons mal à nous-mêmes, mais aussi à nos enfants et à leurs descendants. Autrement dit, nos fausses idées en matière de culte seront transmises à nos enfants et nuiront à leur vie et à leur bonheur. C'est une chose grave et terrible que de transmettre ainsi à nos descendants une fausse conception de Dieu. C'est même l'une des choses les plus terribles qu'un parent puisse faire. Tous ceux qui croient, tant soit peu, à la Bible, peuvent constater que l'adoration des idoles et des faux dieux a automatiquement fait des ravages dans la vie de milliards de personnes. Du fait qu'ils ne connaissent pas leur Créateur, des millions de gens ont été séduits par Satan. Apocalypse 12 au verset 9. Et c'est pour cela qu'ils connaissent la guerre, les foyers brisés, la famine, l'esclavage et toutes sortes d'indescriptibles souffrances humaines. Toutefois, en même temps que cet avertissement, Dieu fait une promesse pleine de miséricorde à ceux qui sont disposés à l'adorer comme il l'ordonne. Il dit qu'il fera miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Il y a là un contraste remarquable. D'une part, Dieu ne punit l'iniquité que jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. D'autre part, il fait miséricorde jusqu'à la millième génération. Il convie donc les hommes à adorer leur Créateur en s'adressant directement à lui. Il les appelle en sa présence spirituelle. En conséquence, il nous est possible de connaître le Dieu suprême de l'univers en tant que notre Père. Nous pouvons marcher constamment avec lui et lui parler. Toutes les fois qu'un homme interrompt ce face-à-face avec Dieu, il court à la ruine de son caractère en transgressant le commandement de Dieu. Telle est la signification du deuxième commandement. Le troisième commandement. Dieu occupe-t-il réellement la première place dans votre vie? Une enquête menée auprès de 1500 étudiants a démontré qu'ils préféraient plutôt obéir à leurs propres principes, puis à ceux de leur famille, ensuite à ceux de leurs amis, et dans une moindre mesure, à ceux de la civilisation en général, et finalement à ceux que Dieu a prescrits. Il est triste de constater que Dieu figurait à la dernière place du classement établi par ces jeunes gens instruits. N'est-ce pas étrange? Et pourtant, au cours de la même enquête, 90% des étudiants interrogés ont déclaré croire en Dieu. cette prédominance de la léthargie spirituelle et de l'irrespect passif à l'égard de Dieu et envers la grandeur de son poste et de sa puissance révèle une tendance croissante, même chez ceux qui vont à l'église et qui se disent chrétiens. On aime parler de Dieu, mais on n'éprouve pas de respect profond à l'égard de son nom. Ce cancer spirituel porte en lui les germes de la destruction de notre civilisation. Ce que déclare le troisième commandement. Nous avons déjà appris qu'il nous faut prendre garde à ne pas faire un Dieu d'un être ou d'un objet quelconque et à ne pas le mettre à la place du véritable Dieu. Nous avons également appris que nous devons marcher avec Dieu, lui parler au moyen de nos prières, le connaître davantage et l'adorer en esprit et en vérité. Le troisième commandement concerne le nom divin, le poste que Dieu occupe en qualité de souverain suprême de l'univers. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Exode 20, verset 7. Dans la Bible, les noms propres ont une signification toute particulière. Le nom d'Abraham fut changé en Abraham, ce qui signifie « père d'une multitude de nations ». C'est précisément ce qu'Abraham allait devenir, le père ou l'ancêtre d'une multitude de nations. Genèse 17 au verset 5. Il en est de même des noms que la Bible attribue à Dieu. Le nom divin identifie celui que nous adorons. Chacun des noms ou des titres qui appartiennent à Dieu révèle l'un des attributs de son caractère. En étudiant les Écritures, nous apprenons à connaître la nature et le caractère de Dieu d'après les noms par lesquels il se désigne. En d'autres termes, Dieu révèle qui il est et ce qu'il est en se désignant par un nom particulier. Lorsqu'on emploie le nom divin de façon à en nier la véritable signification ou le véritable caractère, on transgresse le troisième commandement. Dieu déclare par l'intermédiaire d'Ésaïe. Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël et qui êtes sortis des eaux de la source de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité, sincérité ni droiture. Ésaïe 48 au verset 1. Ceux contre qui cette prophétie est dirigée utilisent le nom divin, mais négligent d'obéir à ce que ce nom révèle. Aussi choquant que cela puisse paraître, il faut mentionner qu'en répétant sans cesse le nom divin dans des sermons ou des prières, un grand nombre de personnes pieuses utilisent le nom de Dieu en vain, c'est-à-dire de façon inappropriée ou injustifiée. Le commandement ajoute « L'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. » Version Osterval. Le mot hébreu qui a été traduit ici par « innocent » signifie également « pur ». L'Éternel ne tiendra point pour pur, celui qui aura pris son nom en vain. Le critère de la pureté spirituelle est l'attitude d'une personne à l'égard du nom divin. Un homme est pur ou impur selon la façon dont il justifie son nom avec respect et sincérité, dans un esprit d'adoration ou par motif de vanité seulement. Réalisez-vous ce que cela signifie ? Cela veut dire qu'il vaut bien mieux renoncer à se servir du nom divin que d'en parler et de le mentionner fréquemment, sans le respect et l'adoration qu'on lui doit. Ce point important fait l'objet de l'un des 10 grands commandements de la loi divine spirituelle. Précisons tout d'abord que le fait de révérer le nom divin ne signifie pas d'essayer de parler l'hébreu ou le grec ou d'apprendre à prononcer son nom dans les langues bibliques originales. Certaines sectes font grand cas d'une telle chose. Elles prétendent que le nom du Père est seulement Jéhovah. D'autres disent que c'est Yahvé. D'autres encore ont leur propre façon, souvent secrète, de le nommer. À vrai dire, étant donné que les voyelles dans l'hébreu ancien n'étaient pas employées, personne ne connaît la façon exacte de prononcer les différents noms hébreux de Dieu. L'ouvrage « Vocabulary of the Greek Testament » de Moulton Milligan déclare « De même que chez les Hébreux, onoma, nom, dans le Nouveau Testament, peut dénoter le caractère, le nom, l'autorité de la personne dont on parle. » Page 451. Dieu lui-même, inspiré Daniel et Esdras, a utilisé un mot araméen pour son nom. Dans 9 chapitres de la Bible qu'ils ont écrit dans cette langue, quant aux rédacteurs du Nouveau Testament, ils ont été inspirés à utiliser des noms grecs pour le désigner. L'important dans tout cela n'est pas le son qui est employé pour décrire Dieu, mais le sens réel que son nom invoque. Dans le langage biblique, le nom d'un individu décrit son poste, son autorité, principalement son caractère. Les noms de Dieu nous indiquent ce que Dieu représente. Il révèle son caractère. Savez-vous vraiment comment est Dieu? Respectez-vous ses différentes fonctions et son nom comme vous devriez le faire? Cherchez dans la Bible et vérifiez. La nature et le caractère de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse 1, verset 1. Dans ce tout premier verset de la Bible, Dieu se révèle sous le nom hébreu Elohim. Il n'y a qu'un Dieu, mais il y a plus de membres dans le royaume de Dieu ou la famille divine. Ce même mot Elohim est employé dans Genèse 1 au verset 26. Puis Dieu, Elohim, dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Ici, il est manifeste que plus d'une personne partage le nom de Dieu, Elohim, et les pages du Nouveau Testament révèlent que Dieu, le Père, créa toutes choses par et à travers Jésus-Christ, qui était avec Dieu et qui était Dieu dès le commencement. Jean 1 au verset 1 à 14 et Éphésiens 3 au verset 9. À la lecture de ces passages, la Bible révèle donc que Dieu se compose de plus d'un être, Dieu le Père et la parole, ou porte-parole, qui devient Jésus-Christ en naissant dans la chair. Ce rapport de Père à Fils montre que Dieu est une famille. La façon dont le mot Elohim est employé dans ces premiers versets de la Genèse et même ailleurs indique que Dieu est un royaume ou une famille. Il est intéressant de remarquer que Elohim est à la forme plurielle. Mais il est utilisé soit au singulier, soit au pluriel, tout dépend du contexte. Du fait que Dieu est le Créateur, il est également le souverain de sa création. Nous constatons qu'aussitôt après avoir créé le premier homme et la première femme, il leur donna des instructions et un ordre. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Genèse 1 au verset 28. Dieu s'appelle aussi El Shaddai, ce qui signifie Dieu Tout-Puissant. Il est la source de tout pouvoir. Son nom doit être révéré, parce qu'il représente celui qui est la source de toute puissance, de tout pouvoir et de toute autorité. Le nom le plus souvent employé dans l'Ancien Testament est traduit en français par « éternel ». Est tiré des lettres hébraïques YHWH, parfois rendu par Yahweh ou Yahvé. Ce mot est à la fois utilisé et défini dans Genèse 21 au verset 33. Abraham planta des tamaris à Beersheba. Et là, il invoqua le nom de l'Éternel, YHWH, Dieu de l'éternité. Ce mot hébreu, parfois traduit par Jéhovah, montre le caractère divin en tant que Dieu éternellement vivant. Il a toujours existé et il existera toujours. Il octroie ses bénédictions à ceux qui croient en lui et qui lui obéissent. Tout au long de la Bible, le nom divin est en rapport avec ses attributs. Sa puissance, son existence éternelle, sa miséricorde, sa fidélité, sa sagesse et son amour. Remarquez comment le prophète David associe le nom et la puissance créatrice de Dieu. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Psaume 8 au verset 2 à 5. Ces versets représentent Dieu comme élevant sa gloire au-dessus de tout. Il n'est donc pas étonnant que son nom et son poste doivent être respectés. Il arrive souvent que l'on entende injurier le nom de notre Créateur et de notre Dieu. Comment concevoir qu'on puisse maudire et injurier le nom de celui qui nous donne la vie? Il y a des expressions fréquemment utilisées qui expriment le souhait que Dieu damne quelqu'un. Pauvre ou riche, des hommes se laissent facilement aller à ce genre de vile imprécation, en pensant souvent qu'il s'agit d'une preuve de virilité et de témérité. L'utilisation de ces expressions prend le nom de Dieu à la légère, en lui demandant de réaliser une malédiction qu'il n'a jamais eu l'intention d'exécuter. Dieu n'a jamais damné qui que ce soit de la manière dont les gens pensent en général. Cette idée n'est qu'une abominable hérésie. L'action divine est une action salvatrice et Dieu n'empêchera personne d'accéder à la vie éternelle, sauf en cas de volonté délibérée de rejeter la voie divine. Dieu dit, Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Ésaïe 66 au verset 2. Le même principe s'applique au sujet du profond respect et de la crainte que nous devrions témoigner pour le nom divin, lequel représente le caractère, la parole et les intentions divines. Peut-on prêter serment? Dans bien des pays, il est d'usage de prêter serment devant un tribunal et de jurer sur la Bible ou en invoquant le nom de Dieu. Mais le Christ nous enseigne de ne jurer aucunement ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Matthieu 5, versets 34 et 35. Le nom divin est tellement sacré et saint que nous n'avons pas le droit de l'invoquer pour appuyer notre parole ou un serment. En conséquence, même si parfois les autorités publiques vous demandent de lever la main et de jurer, elles se contenteront bien souvent du terme « j'affirme » au lieu de « je jure ». En fin de compte, la simple affirmation ou la parole d'un véritable chrétien doit avoir plus de valeur que 1000 serments prêtés à la barre des témoins. Les titres religieux à proscrire. Quant à l'emploi des titres religieux, le Christ a dit « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Matthieu 23 au verset 9. C'est clair, notre seul Père spirituel est Dieu. Le fait d'appliquer d'une façon quelconque ce terme ou d'autres termes similaires en tant que titre religieux à un être humain constitue un blasphème aux yeux du Créateur. Il est question ici, bien entendu, d'un titre religieux et non pas du degré de parenté entre certains membres d'une même famille. Le terme de révérend appliqué à un être humain, fût-il membre du clergé, représente une autre mauvaise application courante du nom divin. Le mot révérend s'applique à une personne digne d'être révérée, à un être digne d'adoration. Aucun être humain mortel n'est digne d'un tel titre. Aussi grand serviteur de Dieu que fut l'apôtre Paul, il a déclaré « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. » J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Romains 7 au verset 18. Quiconque se considérant digne d'être adoré ou de porter le titre de révérend devra un jour s'en repentir car il aura violé le troisième commandement. Le péché le plus courant. En enseignant à ses disciples et à nous qui sommes chrétiens, comment prier, Jésus-Christ a souligné l'attitude de profond respect que nous devrions éprouver envers Dieu et son nom. Il a dit, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Matthieu 6, au verset 9 à 10. Cette précision sur la terre comme au ciel se rapporte non seulement à la demande que ta volonté soit faite, mais également aux demandes que ton règne vienne et que ton nom soit sanctifié. Ces trois points contenus dans la prière du Seigneur évoque la même idée. En effet, nous sanctifions le nom divin en étant soumis à son royaume et à son gouvernement, en faisant sa volonté et en obéissant à ses lois. Le fait d'éprouver tout simplement un profond respect pour le son de ce nom ne représente qu'une partie de l'accomplissement du troisième commandement. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» demanda le Christ. Luc 6 au verset 46. Prier Dieu sans lui obéir est une forme de blasphème. Ceux qui s'imaginent être pieux, qui dissertent de religion et de Dieu, mais qui refusent de lui obéir, sont coupables d'un plus grand péché que ceux qui admettent leur faiblesse charnelle. L'hypocrisie des dénominations religieuses et des individus censément pieux est, de loin, pire que l'indifférence des gens de la rue à l'égard de la religion. Louer Dieu en étant rebelle à ses lois constitue un blasphème. C'est prendre le nom divin en vain. Celui qui prêche ou qui prie avec éloquence, avec les apparences de la piété, mais qui transgresse les commandements divins, Matthieu 5 au verset 19, blasphème en priant. Cet individu parviendra peut-être à tromper son entourage, mais il ne pourra jamais tromper Dieu. En parlant de ces gens-là, Jésus a déclaré, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Marc 7, versets 6 et 7. De nos jours, il y a également beaucoup de gens qui honorent Dieu des lèvres, mais leur culte est vain. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. a dit le Christ, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7, verset 21. Que Dieu vous accorde le désir d'obéir à sa volonté et à ses lois. Puissiez-vous apprendre à adorer Dieu en esprit et en vérité. Puissiez-vous apprendre à honorer et à révérer son saint nom, qui exprime sa puissance, sa sagesse, sa fidélité, son amour, de même que sa bonté, sa patience et sa miséricorde infinie. Le nom divin représente le caractère, le poste et la dignité du Dieu suprême qui dirige l'univers entier. Le quatrième commandement. Quel est donc le sens de la vie? Quel est le but de l'existence et quelles sont les lois grâce auxquelles on peut atteindre ce but? La plupart des gens sont tellement préoccupés par leurs soucis quotidiens de joindre les deux bouts qu'ils ne consacrent, pour ainsi dire, pas de temps aux questions spirituelles. L'étude de la Bible ainsi que la prière leur paraissent être une perte de temps. C'est ainsi que l'homme moderne et civilisé ne connaît presque rien au sujet de ses croyances religieuses. Il est lamentablement ignorant des vérités fondamentales de la Bible. Dieu lui semble éloigné et il estime que la Bible n'est destinée qu'aux vieux et aux prédicateurs. Quant à lui, il espère s'améliorer un de ses jours. Mais comment et quand? Quand prendra-t-il le temps d'étudier la Bible, de prier avec ferveur, de méditer les lois divines et le but de la vie? La réponse sera probablement jamais, à moins qu'il n'apprenne à obéir au quatrième commandement du Dieu Tout-Puissant. L'obéissance à ce commandement, lequel est si peu compris, constitue un facteur puissant pour rapprocher l'humanité de Dieu, afin que le Créateur puisse la bénir et la guider. Ce que déclare ce commandement. Nous avons déjà vu l'importance du péché qui consiste à placer un autre Dieu avant le Dieu véritable. Nous avons étudié que Dieu nous ordonne de l'adorer sans nous servir d'images, de représentations ou d'objets physiques qui pourraient censément nous venir en aide afin d'adorer notre Créateur suprême. Ensuite, nous avons reçu l'avertissement de ne point utiliser le nom divin en vain. Ce nom qui représente sa position, son caractère, sa puissance, sa fonction de dirigeant suprême du vaste univers. Le quatrième commandement complète la première section du Décalogue, qui règle les rapports entre Dieu et les hommes. Il traite de l'observance d'un signe entre Dieu et ceux qui l'aiment et qui lui obéissent. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Exode 20, versets 8 à 11. Ce commandement, qui est le plus long des 10, est celui au sujet duquel les hommes raisonnent et discutent le plus. C'est aussi celui qu'ils voudraient avant tout voir aboli ou séparé du reste des commandements. Notez qu'il commence par l'injonction de se souvenir. Cela prouve qu'il avait déjà été donné auparavant. Dieu rappelait au peuple quelque chose que celui-ci connaissait déjà. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, c'est-à-dire pour le garder saint. L'homme mortel ne peut rendre saint quoi que ce soit. En conséquence, afin de saisir pleinement la signification de ce commandement, il nous faut d'apprendre qui a rendu saint le jour du sabbat et quand cela a eu lieu. Jésus a dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Marc 2, versets 27 et 28. Notez cela, Jésus a dit que le jour du sabbat a été fait. Toute création a son créateur. Notez également que Jésus n'a pas dit que le sabbat avait été pour le juif, mais pour l'homme, pour toute l'humanité. Jésus s'est déclaré, lui, le Christ, maître du sabbat. Dans cette déclaration, il affirme qu'il n'est pas celui qui est venu abolir le sabbat, mais qu'il en est le maître. Au cours de sa vie terrestre, Jésus observa fidèlement le sabbat. Il donna des instructions précises à ses disciples sur la façon de l'observer afin de les libérer des traditions que les Juifs y avaient ajoutées. Avant de poursuivre, posons-nous la question : qui a fait le sabbat ? Qui a fait le sabbat ? afin de comprendre qui a fait le sabbat, comment l'observer et le garder saint, et pourquoi nous en souvenir, il nous faut nous reporter au récit biblique de la création. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1 au verset 1 à 3. Ici, nous constatons que Jésus-Christ, la parole ou le porte-parole, était avec le Père au commencement et que rien n'a été fait sans lui, Jésus-Christ. En tant que second être de la famille divine, le Christ fut l'instrument du Père pour exécuter la création. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul a déclaré sous l'inspiration divine que Dieu a créé toutes choses par Jésus-Christ. Éphésiens 3 verset 9, version Sterval. Dans l'Épître aux Hébreux, le Christ est décrit en tant que Fils de Dieu, que le Père a établi, héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Hébreux 1, verset 2. Ces passages des Écritures, de même que de nombreux autres, montrent qu'il était l'être au sein de la divinité qui, par la suite, devient Jésus-Christ. C'est lui qui a dit « Que la lumière soit, et la lumière fut ». Genèse 1 au verset 3. Il créa l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Genèse 2 au verset 2 et 3. Jésus a dit que le sabbat fut créé pour l'homme. Ici, nous constatons que le sabbat a été fait lorsque l'homme fut créé. Il a été fait par celui qui devint Jésus-Christ en tant que partie intrinsèque de l'environnement de l'homme au cours de la semaine de la création. Notez que Dieu a béni le septième jour et l'a sanctifié. Honneur qui ne fut conféré à aucun des six autres jours précédents. Lorsque Dieu bénit quelque chose, il lui octroie sa faveur et le remplit en quelque sorte de sa présence. On pourrait définir le mot sanctifié en disant que cela revient à mettre à part en vue d'un usage ou d'un objectif saint. Nous constatons donc que, lors de la création, le Dieu Tout-Puissant a honoré et mis à part une période de temps pour un but et un usage sacré. Le sabbat est une bénédiction. Cet aperçu rapide des circonstances de la création du sabbat nous permet de mieux saisir la signification profonde de l'ordre divin. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Exode 20 au verset 8. Par l'intermédiaire de Jésus-Christ, Dieu a rendu saint le septième jour de la semaine et, de par son autorité en tant que créateur, il nous ordonne de le garder saint. Néanmoins, ce jour a été créé pour l'homme en tant que grande bénédiction pour toute l'humanité. Notre Créateur savait que nous aurions besoin d'une période de repos chaque semaine. C'est pourquoi il a créé le sabbat. Tous, autant que nous sommes, nous avons tendance à être absorbés par nos soucis, nos tâches et nos plaisirs au quotidien au cours de la semaine. Mais au cours du sabbat, nous pouvons et nous devons oublier notre routine journalière et nous approcher de Dieu par l'étude, la méditation et la prière. L'humanité a désespérément besoin de ce laps de temps pour être en communion avec son Créateur. Prendre du temps pour songer à Dieu et pour l'adorer, pour prier, pour étudier sa parole et pour méditer sur le but de l'existence ainsi que sur les lois divines ajoute beaucoup de force et de signification à la vie. Le sabbat est, en effet, l'une des plus grandes bénédictions qui ait jamais été octroyée à l'humanité. Explication de ce commandement. Maintenant que nous comprenons que le commandement relatif au sabbat nous engage autant que ceux contre le meurtre, l'adultère et le mensonge, voyons comment il s'applique à notre vie personnelle. Ce commandement se compose de deux injonctions fondamentales. Tout d'abord, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Et ensuite, tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Exode 20 au verset 8 et 9. C'est en vertu de l'autorité divine que les six premiers jours de la semaine ont été institués pour le travail de l'homme. C'est la volonté divine que ce dernier gagne son pain quotidien au cours de six jours de travail, chaque semaine. Une personne oisive est ordinairement portée au vice et au péché. La seconde partie de ce commandement est indissociable de la première. Celui qui ne travaille jamais est totalement incapable d'adorer Dieu. Un travail honnête, réfléchi et tenace au cours des 6 jours est en soi-même un acte de culte et un acte d'obéissance à Dieu. L'homme a été placé dans un monde qui contient tout ce qui est nécessaire à son existence, mais pour l'obtenir, il doit travailler. Au jardin d'Éden, Dieu lui avait dit de cultiver et de garder la terre, c'est-à-dire de l'entretenir. Genèse 2, verset 15. Cependant, à l'inverse, celui qui n'interrompt jamais son travail hebdomadaire pour rendre un culte le 7e jour, comme Dieu l'a ordonné, est incapable de donner toute sa mesure dans le travail au cours des 6 autres jours. Cela s'applique à la fois au service qu'il rend et à la joie qu'il éprouve à accomplir cette tâche. Étant donné que c'est le Créateur lui-même qui l'a ainsi ordonné, nous pouvons observer ce jour de repos et de rafraîchissement spirituel avec l'entière confiance que lui-même nous bénira et nous fera prospérer. Un véritable congé payé. Normalement, si vous cessiez de travailler au bout de quelques jours afin de prendre du repos, vous pourriez tout naturellement vous attendre à être en retard dans votre travail et à être moins rémunéré. Cependant, Dieu est l'auteur d'une grande loi. Les 10 commandements divins sont des lois vivantes et actives, aussi réelles que les lois de la pesanteur. Ces lois sont sans cesse en mouvement et elles sont automatiques. Or, la loi du sabbat soutenue par la puissance même du Créateur dit que si vous vous reposez et adorez Dieu le 7e jour, vous accomplirez davantage en 6 jours qu'en 7. Réalisez-vous ce que cela signifie? Simplement que Dieu nous donne une sorte de congé payé tous les 7 jours. Ce congé n'est pas seulement destiné à notre repos physique, mais il nous permet également de nous consacrer spirituellement à Dieu, de méditer sur les objectifs et sur les lois de la vie que Dieu a instituées, pour les pratiquer ensuite, en observant le 7e jour que Dieu a sanctifié, le seul des 7 jours de la création, l'homme entre en communion étroite avec son Créateur. En effet, ce jour que Dieu a mis à part et sanctifié est le seul qui soit spécialement béni et au cours duquel il soit présent. Nous vivons actuellement les jours les plus affairés que l'humanité ait jamais connus. C'est une époque où la plupart des gens semblent n'avoir que peu de temps, ou même pas du tout, pour méditer sur les objectifs spirituels de la vie. Grâce à la formidable bénédiction que représente le véritable sabbat de Dieu, l'homme peut prendre le temps de réfléchir aux questions essentielles de la vie et communier avec son Créateur. L'observance du sabbat permet à l'homme de rester en contact avec Dieu. Sans ce contact, l'homme s'éloigne du but de son existence et des lois qui régissent sa réussite dans la vie. Il ne lui est pas possible de comprendre ce qu'il est, où il va et comment y parvenir. Sans ce contact, la vie est vide, frustrante et vaine. À notre époque, plus qu'à n'importe quelle autre, nous avons tous besoin du contact avec Dieu, ainsi que de la compréhension spirituelle que l'observance convenable du sabbat nous procure. Elle nous permet d'être bénis et guidés par Dieu. L'exemple de Jésus. Jésus-Christ est l'exemple de la façon dont tout véritable chrétien doit vivre. Il a enseigné par sa vie et ses actes que le sabbat est un jour de réunion entre chrétiens, une assemblée commandée pour le peuple de Dieu, comme cela est enseigné dans Lévitique 23, verset 3. Dans Luc 4, au verset 16, nous voyons ce que Jésus pratiquait selon sa coutume. Selon sa coutume, il, Jésus, entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Il est manifeste que le véritable sabbat est un jour de culte et d'adoration. C'est également un jour au cours duquel la parole et les lois vivantes divines sont prêchées et expliquées. Il est du devoir de chaque véritable chrétien de rejoindre l'Église, au sein de laquelle il lui est possible d'adorer réellement Dieu, en esprit et en vérité. Cette Église doit observer correctement le sabbat du Dieu Créateur et enseigner aux chrétiens à vivre de toute parole de Dieu. Beaucoup d'églises croient à l'observance du 4e commandement, mais la plupart d'entre elles enseignent et pratiquent la violation directe à l'un ou à l'autre des autres commandements. Jésus n'a fondé qu'une église, Matthieu 16, verset 18, qui est la seule à observer tous les commandements divins. Il faut que vous trouviez cette église. Écrivez-nous pour recevoir un exemplaire de notre brochure gratuite intitulée « L'Église de Dieu à travers les âges ». l'Église du Dieu vivant, un des représentants de par le monde. Ils peuvent vous conseiller personnellement et répondre aux questions que vous vous posez. Bien entendu, aucun de nos représentants ne prendra l'initiative de vous contacter, à moins que vous en ayez personnellement exprimé le désir. Réjouissez-vous au cours du sabbat. Apprenez donc à observer le sabbat d'une façon positive. Utilisez le septième jour que Dieu a sanctifié, comme cela était dans ses intentions, afin de vous reposer de vos tâches quotidiennes, de prier, d'étudier et de méditer la parole divine. Prenez le temps de faire du bien aux autres, en vous souciant d'un malade ou en rendant visite à une personne. Assemblez-vous en compagnie d'autres véritables chrétiens, si cela est possible. Le septième jour que Dieu a sanctifié est un laps de temps que Dieu a commandé et béni pour le repos, pour l'exercice du culte et pour la méditation. Si vous avez des questions concernant la manière dont le sabbat devrait être observé, demandez-nous notre brochure gratuite intitulée « Quel est le jour du sabbat chrétien ?» Le quatrième commandement constitue non seulement l'une des plus grandes bénédictions que le Créateur ait jamais octroyées aux hommes, mais c'est également un signe d'identification entre lui et ceux qu'il aime. Souvenez-vous-en et sanctifiez-le. Le cinquième commandement. La violence et l'insolence des jeunes caractérisent notre époque. Le nombre des foyers brisés s'accroît, celui des crimes et des délits, surtout commis par les adolescents, monte littéralement en flèche. Le juge Samuel Leibowitz, qui fait autorité en matière de problèmes juvéniles, a voulu découvrir pourquoi les jeunes se sentaient frustrés. Il s'est donc rendu dans la nation occidentale qui présentait le taux d'incidents et de crimes juvéniles le plus bas, l'Italie. Après avoir interrogé diverses personnalités officielles de la police et de l'enseignement, il a constaté que là où les jeunes respectaient l'autorité, le pourcentage en matière de criminalité juvénile était le plus bas. Il constata que dans les foyers les plus modestes, l'épouse et les enfants respectaient le père en tant que chef de famille. Il a constaté que la société moderne, dont la devise semble être « faite comme bon vous semble », cette société qui permet presque tout, ne rend pas un enfant heureux et équilibré. Ce dernier a besoin des murs solides, de la discipline et des règles qui l'entourent et qui définissent son univers, en lui montrant jusqu'où on peut aller. Depuis sa plus tendre enfance, on doit lui enseigner à respecter ses parents et à lui obéir. Le juge Leibowitz a conclu ses recherches en proposant la simple solution suivante. Remettez le père à la tête de la famille. Cette solution, dans toute sa simplicité, remonte à la source même du problème. Dès le plus jeune âge, on doit apprendre à respecter l'autorité. Cet enseignement doit nécessairement commencer au foyer. Bien avant qu'un enfant ait conscience de l'existence de l'Église, de l'école et de la nation, il édifie en lui une attitude convenable à l'égard de ceux qui sont ses supérieurs à la crèche, à la maison et dans le quartier. Lorsqu'il est développé, dès le commencement, cet aspect du caractère d'un enfant affectera ses pensées et ses actes pendant le restant de sa vie. Ce que déclare le cinquième commandement. Les quatre premiers commandements régissent notre attitude à l'égard de Dieu. Ils nous enseignent l'importance de la puissance de Dieu et de son nom, et ils nous exhortent à nous rappeler qu'il est le Créateur de toutes choses. Le cinquième commandement est le premier des six autres, qui se rapporte à notre attitude envers notre prochain. Il en constitue, pour ainsi dire, le point principal, lorsqu'on comprend bien sa signification réelle. Il agit en tant que liaison entre les deux groupes qui forment les dix commandements. L'obéissance au cinquième commandement est inévitablement en liaison avec l'obéissance à Dieu lui-même et avec la façon de l'honorer. C'est le premier commandement avec une promesse, Éphésiens 6 au verset 2. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Exode 20 au verset 12. Pourquoi devrait-on honorer nos parents? La réponse révèle la profondeur de ce commandement, ainsi que son intention. Chaque parent devrait réaliser que l'existence future d'un enfant est automatiquement liée aux conséquences de son obéissance ou de sa désobéissance au cinquième commandement de Dieu. Sous la dispensation de l'Ancien Testament, l'amende pour avoir violé ce commandement de façon directe et flagrante était la mort. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Exode 21, versets 15 à 17. Cela montre l'importance que Dieu attache à ce commandement. La famille constitue le fondement de toute société convenable. Les rapports des enfants avec leurs parents rappellent les rapports spirituels qui existent entre Dieu et les véritables chrétiens. Les leçons d'édification du caractère apprises dans le contexte familial sont déterminantes pour le restant de la vie, et même de la vie éternelle. Aux yeux d'un petit enfant, ses parents tiennent la place de Dieu. Ils sont ses protecteurs, ses maîtres, ses législateurs, ceux qui l'aiment et qui pourvoient à ses besoins. L'éducation élémentaire d'un enfant et sa façon de réagir à ces rapports détermineront dans une large mesure ses réactions ultérieures aux rapports plus étendus qu'il aura avec la société. En fin de compte, elle affectera certainement ses rapports avec son Père Céleste. L'honneur et le respect dû aux parents. À maintes reprises, le Nouveau Testament amplifie ce commandement. L'apôtre Paul écrit « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. » Éphésiens 6, au verset 1 à 2. Nous devons tous honorer nos parents pendant toute notre vie. Mais dans ce passage particulier, qui est surtout adressé aux enfants, il leur est enjoint d'obéir à leurs parents selon le Seigneur. Un enfant manque d'expérience et de jugement. Il a besoin d'apprendre à obéir immédiatement sans répliquer à ses parents. Néanmoins, de temps à autre, il est souhaitable et recommandé que des explications lui soient données. Cependant, lorsqu'une décision parentale doit être exécutée, il n'est peut-être pas toujours opportun de la justifier sur le champ. En conséquence, il est impératif qu'un enfant prenne l'habitude d'obéir à ses parents sans poser de questions. Répétons-le, aux yeux d'un jeune enfant qui n'a pas encore atteint un certain degré de maturité, ses parents représentent Dieu, et Dieu tient les parents pour responsables d'enseigner et de diriger les enfants comme il convient. L'obéissance selon le Seigneur. Par sa teneur même, le cinquième commandement oblige les parents à être honorables. En effet, afin d'être honorés, on doit d'abord s'en montrer digne. Les parents doivent mener une vie qui soit de nature à inspirer un profond respect. Et ils devraient enseigner à leur enfant à honorer et à respecter les deux parents. Dès que l'enfant est capable de comprendre, les parents doivent lui révéler l'existence de Dieu, du Père spirituel, du Créateur des cieux et de la terre. Il faut que l'enfant apprenne à honorer ce Père spirituel et à lui obéir avec une foi et un amour encore plus purs que dans le cas de ses parents terrestres. La plus grande leçon que l'on puisse enseigner à un enfant est celle de la crainte de Dieu, qui doit toujours demeurer à la première place. C'est pourquoi les enfants doivent apprendre à obéir et à respecter l'autorité. En temps voulu, lorsque leur esprit s'ouvrira à la connaissance du Père suprême, ils auront déjà appris les bases du caractère divin. L'obéissance aimante envers Dieu et le profond respect envers les lois et l'autorité. Une bénédiction liée à l'obéissance. L'apôtre Paul insiste sur la bénédiction qui va de pair avec le cinquième commandement. « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Éphésiens 6 au verset 3. De l'obéissance au cinquième commandement résulte la formation d'habitude et un caractère qui durera toute la vie. Un jeune ainsi formé évitera les imprudences, la violence, les mauvaises compagnies et la rébellion contre les lois, chose qui entraîne souvent une mort prématurée. Quant à la signification ultime, ceux qui apprennent à respecter leurs parents et Dieu lui-même vivront longtemps ici-bas et hériteront un jour la vie éternelle. Jésus a dit « Heureux les débonnaires, c'est-à-dire les humbles et ceux qui obéissent, car ils hériteront la terre. » Matthieu 5 au verset 5. Pour l'enfant qui obéit à ses parents, les bénédictions sont nombreuses, parmi lesquels le sentiment de sécurité n'est certainement pas la moindre. Comme le juge Leibowitz l'a souligné, un enfant est désemparé si on ne lui indique pas jusqu'où il peut aller. L'enfant désobéissant est un enfant frustré. Son esprit est constamment tourmenté par des sentiments de culpabilité et de rébellion. Il n'en est pas de même de lui qui aime ses parents, qui les honore et qui leur obéit, car lui, il sera vraiment béni. Il tendra à mener une existence heureuse et, dans l'ensemble, exempte de soucis. Ayant acquis l'habitude d'honorer ses parents, ce sera pour lui une chose beaucoup plus naturelle de rendre un culte à Dieu. Jusqu'à présent, nous avons surtout évoqué l'application du cinquième commandement aux enfants et aux jeunes personnes. Toutefois, il s'adresse à chaque individu, quel que soit son âge. Tous doivent honorer leurs parents. Il arrive un moment dans notre existence où il n'est plus nécessaire d'obéir strictement à nos parents, mais jamais le moment où l'on pourrait cesser de les honorer. Le mot « honorer » a une signification beaucoup plus étendue que le mot « obéir ». Il indique un respect profond à l'égard de quelqu'un et dénote un sentiment de haute estime. Un individu qui a appris à obéir à ses parents exprime par la suite sa façon de les honorer en appréciant plus profondément le confort et l'éducation qui lui sont donnés au cours de son enfance. Cette façon de les honorer s'exprime par la courtoisie, la gentillesse et l'amabilité à leur égard. À mesure que nous mûrissons, nous nous rendons compte que nos parents ont passé d'innombrables heures de labeur, d'anxiété et de prières angoissées pour assurer notre bien-être. Nous devrions éprouver du plaisir à leur rendre cet amour qu'ils ont eu pour nous. Au soir de leur vie, bien des parents ressentent le désir de jouir de cette même affection et d'éprouver ce sentiment de solidarité avec leurs enfants. Leur rendre cet honneur peut être la bénédiction la plus importante que nous pourrions nous-mêmes recevoir. Souvenons-nous-en et agissons en conséquence. Quelle honte pour nos sociétés censément chrétiennes que des milliers de parents âgés soient aujourd'hui réduits à vivre de la maigre retraite que leur accordent parfois les organismes gouvernementaux. Dans de trop nombreux cas, les enfants sont en mesure de fournir à leurs parents l'aide nécessaire, mais ils n'y sont tout simplement pas disposés. Jésus-Christ a donné l'une des recommandations les plus énergiques à cet égard. À cette époque-là, on trouvait également des excuses pour ne pas subvenir aux besoins des parents. Les gens prétendaient que les fonds qui auraient pu être utilisés de cette manière étaient corbans, c'est-à-dire consacrés au service de l'autel. Ces fonds ne faisaient pas partie de la dîme de Dieu, mais constituaient plutôt une offrande supplémentaire, adressant un reproche à ceux qui se montraient si hypocrites et si entichés de religion. Jésus a dit: vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Marc 7 au verset 9 à 10. Veuillez maintenant remarquer comment ces gens raisonnaient pour ne pas obéir à ce commandement. Jésus poursuit en ces termes: mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Versets 11 à 13. Ces paroles enseignent clairement qu'on doit accorder une assistance matérielle et financière à ses parents âgés s'ils sont dans le besoin, et si on en a les moyens. Ce devoir fait également partie de l'obéissance au cinquième commandement. L'exemple de Jésus. Jésus a vécu pleinement le message qu'il enseignait. Sa vie est un exemple spectaculaire d'obéissance au cinquième commandement. Juste avant sa mort, il affirma: « J'ai gardé les commandements de mon Père. » Jean 15, verset 10. Par son obéissance à son Père céleste, ainsi qu'à ses parents humains, le jeune Jésus croissait en sagesse et en maturité, même au moment de sa mort, tandis qu'il endurait l'une des tortures les plus atroces qui ait été inventée par les hommes. Il l'honora, sa mère, en s'assurant de l'avenir de cette dernière. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple: « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Jean 19, versets 26 et 27. Il prit donc des dispositions en faveur de sa mère afin que Jean s'occupât d'elle par la suite. Un moment où les pensées de tout autre homme auraient été centrées sur lui-même, Jésus se rappela encore le cinquième commandement et témoigna son amour à l'être humain qui lui avait donné le jour. Il honora la femme qu'il avait nourrie et éduquée conformément aux principes divins et qui était maintenant à cet endroit effroyable avec courage en larmes. L'exemple parfait que Jésus-Christ nous a donné nous permet certainement de mieux comprendre la portée du cinquième commandement qui nous ordonne: « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Exode 20 au verset 12. Le sixième commandement. La haine et la violence règnent un peu partout à notre époque de lutte, de concurrence et de tension. L'humanité tente à s'accoutumer à l'éventualité du suicide mondial. Tout naturellement, celle-ci exerce un effet dévastateur sur les principes et sur les idéaux des peuples. Nous avons déjà vu quelles sont les bénédictions qui résultent du respect que l'on éprouve pour Dieu lorsqu'on honore son nom et qu'on sanctifie son jour de sabbat. De même que lorsqu'on honore nos parents, qui sont le reflet de la paternité de Dieu et de son amour envers sa création. tous les commandements divins reposent sur l'amour et amènent des bénédictions. Au milieu du tonnerre, des éclairs et de l'ébranlement au sens propre de ce terme, du haut du mont Sinaï, Dieu proclama d'une voix tonitruante le sixième commandement. Tu ne tueras point. Exode 20, verset 13. Les érudits bibliques sont d'accord sur le fait que le verbe assassiner rendrait plus correctement le sens du mot hébreu original, traduit ici par tuer. En effet, il est possible de tuer sans pour autant assassiner. Précisons également que seule la lettre de la loi divine fut donnée à l'ancien Israël, tandis que les chrétiens doivent vivre non seulement selon la lettre, mais aussi selon l'esprit de cette loi, tel que le Christ l'expliqua. Sous la lettre de la loi, c'était l'assassinat ou le meurtre qui était interdit. Rappelez-vous que, sous l'ancienne alliance, Dieu avait ordonné à son peuple de tuer ou d'exécuter ceux qui se rendaient coupables de crimes. Exode 21, versets 12 à 17. La mort provoquée accidentellement n'était pas considérée comme un meurtre. Nombre 35, versets 6 à 34. L'homicide involontaire était de toute évidence un acte délictueux grave, et le meurtrier involontaire devait demeurer dans une ville de refuge pendant plusieurs années, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. D'après la lettre de la loi, la peine capitale pour un crime délibéré, de même que les guerres qu'Israël livrait sur l'ordre divin, n'étaient pas considérées comme des actes meurtriers, mais comme l'exécution de la volonté divine, par l'intermédiaire d'instruments humains. À titre d'exemple, Dieu a ordonné à Israël d'exterminer les tribus païennes du pays de Canaan. Deutéronome 7 au verset 1 à 2. Il ne s'agissait pas de guerre conçue par les hommes. Il n'était pas davantage question de vengeance ou de méchanceté individuelle ou nationale. Il s'agissait d'une soumission à la volonté de Dieu, qui donne la vie et qui, seul, a le droit de décider quand celle-ci doit être reprise. Notons au passage que l'histoire indique que les nations qui occupaient alors le pays de Canaan étaient méchantes à l'extrême. Elles brûlaient vifs leurs enfants au cours de sacrifices humains offerts à leurs dieux païens. Le Créateur n'hésita pas à ordonner à l'époque leur extermination. Notez que dans les cas où Dieu permettait à la nation d'Israël de partir en guerre, il l'utilisait en tant que son instrument de jugement. À l'origine, il était dans les intentions divines que l'homme apprenne à ne pas tuer. Et bien que cet acte fût permis dans certains cas au peuple charnel et non converti d'Israël, nous verrons que Dieu, à l'heure actuelle, développe chez ses enfants engendrés par son esprit le caractère qui les porte à aimer, à servir autrui et à sauver la vie, et non à la supprimer. La source de la vie. Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et qu'il domine. » Genèse 1, verset 26. Il a donné la vie à l'homme, ce dernier ne se l'est pas donné lui-même. Il n'a pas le droit de se l'ôter, ni d'ailleurs de la prendre à d'autres. Parmi toutes les créatures physiques, seul l'homme a le genre d'esprit que Dieu possède. Dieu est le souverain de tout ce qui existe. Néanmoins, il forme à partir de la chair des fils spirituels qui, un jour, domineront avec lui. L'homme a besoin d'expérience afin de développer en lui le caractère que Dieu a en vue pour lui. L'expérience exige du temps. La vie d'un homme n'a qu'une durée déterminée. Dieu nous a donné cette vie en vue de nous préparer à être dans son royaume, à jamais. Le fait de donner la vie, le souffle et les capacités inclut tout. C'est le don le plus merveilleux que l'on connaisse. Prendre la vie, c'est tout anéantir, c'est mettre fin cruellement et de façon inattendue aux espoirs, aux rêves et aux projets de quelqu'un qui a été fait à l'image du Créateur lui-même. C'est usurper une prérogative qui appartient à Dieu seul. Job 1, verset 21. En conséquence, le meurtre sous toutes ses formes est l'un des plus graves péchés que l'on puisse commettre. Il met fin à la vie de la plus importante création du Dieu Tout-Puissant, et cela revient à faire obstacle au but poursuivi par le souverain suprême de l'univers. La vie est un don divin. Aucun être humain, mortel, n'a le droit de toucher au plus beau des dons divins. L'application du commandement. Jésus-Christ est venu amplifier les lois divines et les rendre plus magnifiques. Ésaïe 42, verset 21. Il a mis en lumière les 10 commandements, il a montré leur signification spirituelle dans la vie chrétienne, en disant « Vous avez entendu, il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par le sang d'Édrin. et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Matthieu 5, versets 21 et 22. Ici, nous apprenons l'origine du meurtre, la haine et la colère. Jésus déclare que si la colère emplit le cœur de quelqu'un, celui-ci est en danger de tomber sous le jugement. Si la colère l'incite à tourner en dérision son prochain ou à éprouver un mépris total pour lui, alors il mérite d'être puni par le Sanhédrin, c'est-à-dire par le châtiment divin. Si, dans son amertume et dans son mépris, quelqu'un dit à son prochain insensé, expression qui, dans la langue grecque originale, marquait la condamnation, il mérite d'être jeté dans les temps de feu. Telle est l'application que le Christ a faite du sixième commandement. Si nous laissons pénétrer dans notre cœur la haine et la colère, nous entretenons en nous un esprit de meurtre. L'acte suit la pensée. D'abord nous pensons, puis nous agissons. L'esprit du Christ nous guide, non seulement pour être maître de nos actes, mais également de nos pensées et de nos attitudes. La nouvelle alliance est en partie le processus par lequel Dieu écrit sa loi dans notre cœur et dans notre esprit. Hébreux 8 au verset 10. Il nous dit, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Romains 12, verset 19. L'homme est incapable de tirer vengeance en faisant preuve de sagesse et de justice. Dieu seul a la sagesse, la puissance et le droit de tirer une vengeance équitable des êtres humains, et même, s'il le faut, de les mettre à mort. Dieu est réel, sa protection et sa vengeance le sont aussi. Comment, dans ce cas, devrions-nous traiter nos ennemis? Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, versets 20 à 21. Il nous faut une réelle force de caractère pour aider et pour servir notre prochain lorsqu'il a essayé de nous nuire. Nous avons besoin de sagesse pour nous rendre compte qu'il est, après tout, un être humain comme nous, fait à l'image de Dieu. Quelqu'un qui s'est tout simplement fourvoyé momentanément, tant dans ses pensées que dans ses actes. Le plus grand crime de l'humanité. Le fléau de la guerre est peut-être le plus grand crime collectif de l'humanité. Au cours des âges, des millions de vies humaines, créées à l'image de Dieu, ont été supprimées sans pitié dans des guerres qui, le plus souvent, ont totalement échoué quant à l'objectif qu'elles étaient censées atteindre. L'esprit de la loi divine, tel que Jésus-Christ l'a expliqué, est totalement contre toute forme de guerre. Presque tous les dirigeants religieux et politiques du monde reconnaissent l'inutilité des guerres. Le pape Pie XII avait déclaré « On gagne tout en faisant la paix, on ne gagne rien en faisant la guerre ». Le général MacArthur, l'un des hommes d'État et des chefs militaires les plus respectés de notre époque, avait dit « Depuis toujours, les hommes veulent la paix ». Les alliances militaires, l'équilibre des forces, les ligues de nations, tout cela a échoué en laissant libre la voie qui mène à la guerre. Le pouvoir de destruction absolue de la guerre supprime désormais cette alternative. Nous avons eu notre dernière chance. Si nous ne voulons pas inventer un autre système plus grand et plus équitable, Armageddon sera à notre porte. Le problème fondamental est d'ordre théologique et implique qu'il y ait plus de spiritualité et une amélioration du caractère humain. En parallèle avec l'évolution incroyable de la science, de l'art, de la littérature et de tous les progrès matériels et culturels cumulés depuis 2000 ans, nous devons faire appel à l'esprit si nous voulons sauver la chair. La dernière chance de l'humanité consiste à se repentir du péché et de la guerre, avant que l'annihilation de l'humanité ne fasse disparaître toute trace de vie de la planète. Le général MacArthur savait que notre problème était théologique, directement lié à la connaissance du véritable Dieu, et qu'il implique une amélioration du caractère humain. Le plus grand homme d'État de tous les temps fut Jésus-Christ. Il fut le porte-parole du gouvernement ou du royaume de Dieu. Il a dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Matthieu 5 au verset 43 et 44. Il y a eu plus de morts prématurées, de souffrances, de foyers anéantis, et plus de temps et de biens gâchés à cause du fléau de la guerre que par n'importe quel autre moyen employé au cours de l'histoire. La guerre n'a jamais résolu les problèmes des hommes, ni amené une paix permanente. Elle ne fait qu'engendrer d'autres guerres. Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Matthieu 26 au verset 52. Ce que la Bible enseigne. Jésus-Christ vient dans le monde en tant que messager du gouvernement ou du royaume de Dieu. Il ne participa ni aux affaires politiques ni aux conflits du monde. Sa vie était en jeu devant Pilate. Il déclara « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Jean 18, au verset 36. Comme nous l'avons déjà dit, Dieu seul nous donne la vie, et lui seul a le droit de la reprendre. En conséquence, Dieu seul a le droit aux guerres. Jésus a enseigné, en outre, que Dieu ne désirait pas que ses enfants se battent pour lui. Si son royaume avait été de ce monde, ses serviteurs se seraient battus pour lui. Mais tel n'était pas le cas. Par l'intermédiaire de l'apôtre Jacques, Dieu montre que la guerre résulte d'un état d'esprit qui est opposé à celui qu'il désire, voire chez les chrétiens. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Jacques 4, versets 1 et 2. Le gouvernement divin mettra fin à la guerre. Jésus-Christ est venu prêcher la bonne nouvelle du gouvernement de Dieu. Celui-ci est fondé sur les 10 commandements, la loi spirituelle. Jésus magnifia cette loi, et en décrivant son intention ainsi que son but, il alla même jusqu'à dire que si nous haïssons notre frère, nous devenons coupables de meurtre. Jésus enseigna que des hommes obéiraient aux lois divines et préparaient son royaume à venir, en acceptant que le caractère de Dieu, édifié par l'obéissance à ses lois, soit placé en eux. Lorsque le gouvernement de Dieu sera établi ici-bas, sa loi rayonnera en tant que modèle de conduite pour toutes les nations. Michée 4, versets 1 à 2. À cette époque, Dieu seul fera la guerre, avec sagesse et avec justice, pour châtier les nations rebelles. Qu'en résultera-t-il? Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Verset 3. Pour faire la guerre, on apprend à haïr et à tuer. Les jeunes hommes ne seront plus obligés à apprendre et à développer une attitude diamétralement opposée à la loi divine d'amour. Un jour, Dwight D. Eisenhower a dit « L'espérance humaine d'un monde pacifique ne réside pas dans le maintien de troupes armées antagonistes, mais dans une idée. Cette idée consiste à concevoir une loi pour régler les disputes entre États. Que cet ancien président en ait eu conscience ou non, il suggéra que seul le gouvernement de Dieu fondé sur ces lois résoudra les problèmes des hommes et des nations. » En attendant, les véritables chrétiens doivent agir et prier pour le royaume pacifique de Dieu, en réalisant qu'un esprit conflictuel équivaut à un esprit de meurtre. Il faut fuir cela de toutes nos forces. Il y a longtemps, avant la fondation de la Société des Nations, un ecclésiastique américain, Dr. Harry Emerson Fosdick, avait dit une chose qui est encore valable aujourd'hui. Par essence, Jésus-Christ et la guerre ne sont pas conciliables. Ce défi devrait inciter la chrétienté à bouger. La guerre est le plus colossal et le plus ruineux péché de la société qui puisse nous atteindre. Elle n'a strictement rien de chrétien. Quel qu'en soit son impact ou la méthode, elle va dans un sens opposé à celui de Jésus. Et elle ne s'accorde en rien avec ce qu'il a enseigné. Pire que n'importe quelle théorie athée imaginable, elle contredit de façon flagrante toute doctrine chrétienne relative à Dieu et à l'homme. Il serait encourageant, n'est-ce pas, d'entendre l'Église chrétienne clamer son adhésion à cette très haute valeur morale de notre époque, comme du temps de nos pères, afin de définir à nouveau un standard clair et net contre le paganisme actuel et refuser de se faire dicter sa conduite par des États belligérants. Plaçant le royaume de Dieu au-dessus du nationalisme et appelant le monde à faire la paix. Cela n'illustrerait pas un manque de patriotisme, mais en serait plutôt l'apothéose. Jésus-Christ est contre le meurtre sous toutes ses formes. Il est contre la guerre et il y mettra définitivement fin un jour. Il est contre toute forme de malice, d'envie et de haine. Jésus-Christ a enseigné la dignité envers l'homme, créé à l'image divine, et le caractère sacré de la vie humaine. Le Père de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant qui gouverne l'univers à partir de son trône dans les cieux. Ce Dieu s'adresse d'une voix de tonnerre à une génération violente et rebelle, en lui disant « Tu ne tueras pas ». Exode 20, au verset 13. Le septième commandement. La compatibilité sexuelle est-elle la chose la plus importante dans le mariage? À notre époque de foyers brisés, de délinquance juvénile et de psychologie moderne, bien des gens répondront à cette question par l'affirmative. Toutefois, le fait est que plus ces théories modernes sont appliquées, plus le taux de divorce s'élève et plus il y a d'enfants qui sont condamnés à grandir sans connaître la bénédiction que représente un foyer stable et heureux. Il est désolant qu'en Amérique, presque la moitié des mariages finissent par un divorce. Le mariage prend fin, mais la souffrance, l'angoisse et le ressentiment continuent. Pour les jeunes enfants issus de ces foyers brisés, les années de frustration et de sentiment d'abandon ne font que commencer. Le mariage a-t-il un sens pour l'homme et la femme moderne? Dieu a-t-il donné des lois et des principes qui peuvent garantir un mariage chrétien, le rendre heureux et enrichissant? Ce que déclare le 7e commandement. Dieu a consacré 2 d'entre les 10 commandements à la protection des rapports qui existent au sein de la famille. Nous avons déjà discuté du premier, qui dit « Honore ton père et ta mère », Exode 20, verset 12. L'autre se résume dans le 7e commandement où Dieu déclare « Tu ne commettras point d'adultère », Exode 20, verset 14. Ce commandement protège l'honneur et la sainteté du mariage. Immédiatement, après le 6e commandement qui confirme le caractère sacré de la vie humaine. Dieu donne cette loi destinée à sauvegarder les rapports terrestres les plus élevés qui soient. Le mariage et le foyer sont le fondement de toute société digne de ce nom. Les termes de ce commandement interdisent formellement l'adultère, en tant que violation des règles sacrées des relations au sein du mariage. Dans son esprit, il est manifeste qu'une conduite qui ne soit pas chaste avant le mariage est préjudiciable à un mariage ultérieur et constitue une violation du 7e commandement au même titre que l'adultère commis après le mariage. Dans son principe, le 7e commandement englobe toutes les formes de sexualité illicite, incluant l'homosexualité masculine et féminine, un péché énorme qui caractérise notre monde occidental à l'heure actuelle. Le mariage est une institution sainte et précieuse aux yeux de Dieu. Il ne doit pas être souillé. La signification du mariage et sa signification dans le plan divin sont désespérément nécessaires en cette époque de mariage malheureux et de foyers brisés. Le but du mariage. Il est impossible de saisir la signification réelle du mariage sans comprendre au préalable que le sexe et le mariage sont donnés et ordonnés par Dieu. En excluant Dieu, comme on le fait à notre époque, revient à dégrader l'union maritale au niveau animal. Quelle était l'intention divine à la création de l'homme et de la femme? Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit-il. Je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse 2, verset 18. L'homme était, en effet, incomplet de par lui-même. Aussi, Dieu décida-t-il de faire une aide semblable à l'homme, avec qui ce dernier pourrait partager son existence. Le but principal du mariage est de rendre l'homme et la femme complets, car l'un sans l'autre est incomplet. À lui seul, l'homme n'était pas à même d'atteindre l'objectif pour lequel il avait été créé. Il n'était pas en mesure d'apprendre les leçons de caractère que Dieu avait prévues pour lui. C'est ainsi que Dieu créa la femme, une aide pour l'homme, et leur montra qu'ils devaient vivre ensemble, en tant que mari et femme au sein d'une union physique, afin de tout partager dans leur vie. Le deuxième but du sexe et du mariage est l'engendrement des enfants et leur éducation. Dieu a dit au couple, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettez cela. » Genèse 1, verset 28. Mettre au monde des enfants sous-entend que l'on est disposé à assumer la responsabilité de les protéger et de les éduquer. Un foyer et un mariage heureux sont indispensables pour l'éducation et la formation des enfants. Dieu a dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Proverbe 22, verset 6. Le foyer et la famille sont le fondement de toute société qui se respecte. Les leçons de caractère que l'on apprend au foyer, la patience, la compréhension et la bonté sont les qualités que Dieu désire trouver en nous pendant toute l'éternité. Or, mieux qu'en tout autre endroit, c'est dans un foyer heureux, bien équilibré, que l'on apprend ces leçons. En conséquence, le troisième grand but du mariage, outre de rendre l'homme complet et apte à engendrer et à éduquer des enfants, est l'édification du caractère par les rapports existants au sein de la famille. Le royaume et la loi divine sont fondés sur l'amour. Jésus a dit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Acte 20, verset 35. Afin d'obéir aux lois divines relatives au mariage, l'homme et la femme doivent donner d'eux-mêmes, l'un à l'autre, dans chaque phase et chaque aspect de leur vie. Le Christ et son Église. L'union conjugale est tellement sainte que Dieu dans sa parole s'en sert comme symbole des rapports qui existent entre le Christ et son Église. Veuillez noter à ce propos ce que déclare Éphésiens 5 au verset 22 à 24. « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. » Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Ici, Dieu montre que dans une famille chrétienne, la femme doit se soumettre à son mari, qui est le chef du foyer. Elle et lui doivent apprendre à se soumettre au Christ, à tout jamais. Par l'intermédiaire de ces rapports saints, ils apprennent tous deux une leçon de fidélité durable. Dieu s'adresse ensuite au mari en disant « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Versets 25 à 28. De même que Jésus-Christ a servi, aidé et protégé son Église, de même les maris doivent protéger, guider, encourager, aimer leur femme et pourvoir à leurs besoins. Il est du devoir du mari d'utiliser ce poste pour servir et pour guider sa femme et sa famille, pour les protéger et pour leur procurer du bonheur. Dieu le tient responsable d'être le véritable chef de la famille. C'est à cause de cette grande leçon et du but recherché au sein du mariage que Dieu a dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Verset 31. Dans l'union conjugale, l'homme et la femme deviennent un seul corps. Leurs rapports ont pour but de symboliser le rapport éternel plein d'amour et de serviabilité entre le Christ et son Église. En conséquence, rien ne justifie qu'ils se séparent. Le mariage nous enseigne une fidélité éternelle à Jésus-Christ en tant que notre chef. Le fait de se séparer d'un conjoint revient à ne pas avoir appris cette leçon. Comment pourrons-nous jamais être fidèles à Dieu pendant toute l'éternité si nous refusons égoïstement de l'être au conjoint auquel nous sommes liés pour quelques années au cours de cette vie terrestre? Comment pourrons-nous apprendre les leçons de patience, de bonté, de persévérance, de maîtrise de soi, d'amour et de fidélité que sous-entend l'union sacrée du mariage? L'enseignement de Jésus-Christ. Lorsque les pharisiens hypocrites demandèrent à Jésus pourquoi Moïse avait permis le divorce à l'époque de l'Ancien Testament, il répondit « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Matthieu 19 au verset 8 et 9. Un divorce engendre un autre divorce. Précisons que le divorce était rare, il y a encore une soixantaine d'années. Autrefois, les dirigeants religieux nous prévenaient que si l'on commençait à tolérer le divorce, on ne pourrait plus le retenir. Aujourd'hui, nous pouvons constater l'exactitude de cet avertissement. Malheureusement, aujourd'hui, nous contemplons le triste et lamentable spectacle de la moitié et, dans certaines régions, d'un pourcentage supérieur de tous les mariages qui se terminent par une rupture devant les autorités compétentes. Mais après cela, que se passe-t-il? Les statistiques prouvent que la plupart des divorcés se mettent en quête d'un autre conjoint. La majorité en trouve un deuxième, puis un troisième ou même un quatrième. Il était dans les intentions divines que ce désir naturel soit canalisé et satisfait par le premier mariage ou après un remariage à la suite du décès de l'un des conjoints. Ce que nous constatons est un spectacle pitoyable et une honte à l'échelle nationale. Bien que Dieu autorise le divorce dans certains cas, il est de loin préférable que toute personne mariée apprenne à aider, à servir et à pardonner à son conjoint en maintenant le lien sacré du mariage. Mais la clause d'exception mentionnée par Jésus, sauf pour infidélité, pornéa, Matthieu 19 au verset 9, ne devrait être appliquée qu'en dernier ressort et après beaucoup de prières, de conseils et de tentatives sérieuses pour sauvegarder le mariage. Le même principe devrait s'appliquer à la permission donnée par l'apôtre Paul aux chrétiens qui se remarient après avoir été abandonnés par son conjoint non converti, 1 Corinthiens 7 au verset 15. Décrété par Dieu, nous avons déjà vu que le mariage n'est pas une institution qui est censée évoluer du fait du raisonnement de l'homme. Il a été ordonné par Dieu, le Créateur, en tant qu'union sainte, représentant la fidélité éternelle entre le Christ et son Église. Toute forme d'adultère est néfaste et mauvaise, car le mariage est saint aux cieux de Dieu. L'adultère ne nuit pas seulement aux époux lésés qui en sont les victimes, mais également à leur foyer et à leurs enfants. C'est une offense contre la société, car elle s'attaque au fondement de toute société acceptable. Avant tout, c'est un crime contre Dieu et contre l'institution que Dieu a prescrite et sanctifiée. Aujourd'hui, notre société rebelle à Dieu recherche trop souvent un idéal romantique de type hollywoodien dans le mariage. Par conséquent, des hommes et des femmes sont subtilement poussés à rompre leur alliance. Si leurs désirs sexuels égoïstes ne sont pas assouvis avec leur épouse ou avec l'époux de leur jeunesse. Dans une société où les mariages se font et se défont à la chaîne, il n'est pas possible d'apprendre les leçons essentielles de caractère que le mariage peut et devrait t'enseigner. La patience, la miséricorde, l'humilité, le service et la fidélité durable entre conjoints. En outre, c'est faire peu de cas des souffrances et des frustrations imposées aux enfants qui sont nés de leur union, des dommages irréparables qu'ils devront supporter dans leur être et dans leurs pensées, et qu'ils transmettront probablement à la génération future. Quoique Dieu permette, sous conditions restrictives, que certains mariages soient annulés par un divorce, c'est une chose que notre Créateur déteste, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Malachie 2, verset 16. La Bible dit également, « Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. » Verset 14. « Aucun doute n'est permis. Dieu hait le divorce, même s'il le tolère parfois. » Afin d'apprendre les leçons que Dieu veut nous enseigner à travers le mariage, les véritables chrétiens devraient se mettre en quatre pour leur conjoint, physiquement, mentalement et par leur attitude. Ils devraient s'efforcer de se comprendre mutuellement, partager leurs projets, leurs espoirs et leurs rêves librement et dans la joie. Avec l'aide de Dieu, ils devraient rejeter toute pensée d'adultère ou licencieuse qui se présente à eux. On comprend mieux le péché de convoitise lorsqu'on saisit à quel point l'usage convenable du sexe dans le mariage est juste et sain aux yeux de Dieu. L'adultère et le divorce commencent habituellement dans la tête. Jésus-Christ a traité ce point particulier lorsqu'il a développé la loi divine en disant « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Matthieu 5, versets 27 et 28. En d'autres termes, on transgresse le septième commandement lorsqu'on conçoit des pensées de convoitise sexuelle à l'égard d'une autre personne. À la pensée succède l'acte. Aussi, est-ce une partie du développement du caractère pour toute personne qui craint Dieu que d'apprendre à guider et à maîtriser ses pensées, loin de toute convoitise et de tout désir sensuel. La plupart des industries qui contrôlent les médias, comme la télévision et le cinéma, mettent l'accent sur un nombre toujours plus grand de productions basées sur la violence ou le sexe, ou sur la combinaison des deux. Mais la société moderne paie une terrible amende pour ces abominations et ces péchés si répandus. De plus en plus de foyers deviennent malheureux à cause des relations adultères de l'un des conjoints, ou même de la part des deux. Une quantité croissante de foyers se brisent et finissent par le divorce. Il en résulte qu'un grand nombre d'enfants sont privés de l'amour de leurs parents et ne sont plus guidés par eux. Les relations sexuelles illicites avant le mariage, appelées fornication, deviennent chose courante chez un grand nombre de jeunes aujourd'hui. Chacune de ces choses est une transgression du septième commandement. Ces jeunes qui, par la fornication, méprisent et compromettent le bonheur de leur futur mariage, compromettent fortement leur avenir dans une vie future. S'ils ne se repentent pas en stoppant leur vile pratique, ils forceront Dieu à les exclure de son royaume et de la vie éternelle. 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10. Les lois divines contribuent toujours à notre bien et à celui de notre entourage. Nous devrions nous y soumettre. Nous devrions craindre d'être trouvés parmi les abominables et les débauchés, qui ont leur part dans l'étang de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Apocalypse 21, verset 8. Obéissez au septième commandement. Dieu donne un certain nombre de conseils à ceux qui seraient tentés de pratiquer la fornication ou l'adultère. En cet âge de stimulation et de convoitise sexuelle, il est d'une valeur inestimable de tenir compte de ces conseils, si l'on désire entrer dans le royaume de Dieu et participer à la vie éternelle. Dieu déclare, fuyez la débauche. 1 Corinthiens 6, verset 18. Il nous dit de ne pas permettre à notre esprit d'accepter d'entretenir des pensées ou des désirs sexuels. Un individu ne doit pas se retrouver seul avec une personne mariée ou célibataire du sexe opposé, susceptible de se tenter sexuellement. Dieu nous dit de ne pas regarder des films de cinéma ou des émissions de télévision, ou de ne pas lire des livres qui nourrissent un appétit malsain pour le sexe. Dieu dit de nous éloigner autant que possible de ces choses-là. il dit de fuir rapidement les tentations sexuelles. Le sexe n'est pas un jouet avec lequel on pourrait se livrer à des expériences. C'est une bénédiction octroyée par Dieu dans l'union matrimoniale. On devrait y penser avec respect en tant qu'expression d'amour altruiste au sein d'une union qui symbolise la fidélité éternelle du Christ et de son Église. Notre génération a désespérément besoin d'apprendre la fidélité dans le mariage et dans la famille. Il faut obéir à la fois à la lettre et à l'esprit du septième commandement divin qui vous ordonne « Tu ne commettras point d'adultère ». Exode 20, verset 14. Le huitième commandement. Après avoir tonné du sommet du mont Sinaï les commandements ordonnant de l'adorer de la bonne manière et les lois protégeant les relations humaines les plus saintes de toutes, le foyer, la famille et la vie humaine, Dieu énonce le huitième commandement. Cette loi divine protège tous les biens et les possessions privées. Tu ne déroberas point. Exode 20, verset 15. L'homme ne pense pas que celui qui a donné ce commandement est réel. Il ne craint pas de désobéir à la loi divine. C'est pour cette raison que nous n'avons jamais connu autant de vols. Mais il y a encore des centaines de façons de violer ce huitième commandement. À titre d'exemple, après avoir discuté sur les moyens de frauder un concurrent ou un client, des cadres hausseront les épaules et se contenteront de déclarer « Que voulez-vous ? Ce sont les affaires. » Ou encore, après une livraison qui sous-entend de la mauvaise qualité ou une publicité trompeuse, un homme d'affaires s'écriera « Que ce soit moi ou un autre qui le fasse. Quelle différence après tout ?» Lorsqu'un contribuable fraude le gouvernement ou fait une fausse déclaration sur ses revenus afin d'apaiser sa conscience, il se tient à peu près le raisonnement suivant. Autour du gouvernement maintenant. De toute façon, il nous prend déjà trop d'argent. Qu'est-ce que cela peut faire? En effet, qu'est-ce que cela peut faire? Ne sont-ce que des affaires. Ce sont en réalité les affaires de Dieu qui a décrété un arrêt par une loi qui déclare qu'il ne dérobera point. Lorsque vous transgressez une loi divine, vous tombez sous une condamnation. Les lois divines sont vivantes et agissantes, comme la loi de la pesanteur. Lorsqu'on les transgresse, le châtiment est automatique. Le droit à la propriété. D'après la Bible, il n'y a que deux façons justes d'entrer en possession d'un bien. La première est de recevoir un don ou un héritage d'une autre personne ou de Dieu lui-même. La seconde est la rétribution d'un travail honnête qui nous fait gagner quelque chose en tant que rémunération légitime. Tout autre moyen peut être assimilé à du vol, c'est-à-dire l'appropriation de ce qui appartient à autrui. Le huitième commandement reconnaît l'acquisition légitime de la propriété en même temps qu'il interdit le vol. Il est important de noter que, dans son principe, ce commandement condamne toute forme de système qui nie le droit de l'homme à la propriété, que ce soit en tant qu'individu ou que collectivité. Il interdit également le vol entre nations par lequel les gouvernements confisquent et dérobent par la force les biens et les possessions de leurs propres ressortissants des citoyens d'autres nations. À notre honte, toutes les nations sont coupables de telles violations de la loi divine. Aujourd'hui, le vol s'étend à tous les domaines. Non seulement on dérobe des milliers d'articles dans les magasins, dans les hôtels, les écoles et même les églises, mais parfois on organise encore dans les écoles et les universités un système complexe de fraude lors des épreuves et des examens. Du fait qu'on la considère en général sans trop s'alarmer, cette pratique s'étend à un rythme sans précédent. Tricher, de cette façon, revient à s'approprier une note ou un diplôme de façon illégale, ce qui équivaut à transgresser le huitième commandement. L'industrie ou le marchand qui a recours à des mesures ou à des poids faux, à des matériaux de mauvaise qualité ou défectueux, en vue de tromper le public, est tout aussi coupable de transgresser ce commandement qu'un voleur ordinaire. Il essaie de se procurer davantage que ce qu'il doit légitimement retirer de son produit. C'est du vol. Combien de fois cette sorte de délit et de fraude est pratiquée? Dieu seul le sait. Le vol au moyen d'une publicité fallacieuse. L'un des péchés commerciaux les plus courants à notre époque consiste à faire une publicité trompeuse. On incite le consommateur à attendre d'une certaine pilule, qu'elle lui fasse perdre ou gagner du poids, qu'elle accroisse ses capacités physiques, qu'elle fasse repousser ses cheveux, ou encore qu'elle résolve tous les problèmes pouvant se poser à lui. La plupart du temps, cette publicité est fondée sur le mensonge. Cette pratique revient à voler les gens qui versent de l'argent dans l'espoir d'obtenir ce qui leur a été promis. Bien souvent, l'argent est soutiré aux victimes de ces fraudes gigantesques, mais on leur vole également leur santé, leur sérénité et leur bonheur. Nombre d'hommes d'affaires sont parvenus à la situation qu'ils occupent, en grande partie grâce à ce genre de tromperies et de vols à grande échelle. Il faut absolument que l'humanité se réveille, car un péché peut sembler respectable en apparence, mais Dieu est notre véritable juge. Le Tout-Puissant déclare : Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les voleurs n'hériteront le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6 au verset 9 et 10. Comprenez bien qu'il est dans les intentions divines que ses serviteurs soient prospères, tant qu'ils gagneront leur vie honnêtement et qu'ils ne mettront pas leur cœur dans les biens matériels. L'apôtre Jean a écrit : Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 2. Une richesse ternie. Le principe dont s'inspire ce commandement est très souvent transgressé dans les rapports entre patron et salarié. L'apôtre Jacques, sous l'inspiration divine, met en garde le patron malhonnête. Il crie contre vous le salaire dont vous avez frustré les ouvriers. Et les cris de ceux-ci sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Jacques 5 au verset 4, version synodale. À notre époque de mœurs corrompues, plus d'un salarié vole également son patron. Il le fait en touchant son salaire tout en s'abstenant d'accomplir pleinement sa part de travail honnête. C'est du vol. Il n'est pas rare d'entendre un travailleur dire à un autre : Vas-y doucement, mon vieux, tu travailles trop dur. Si tu continues comme ça, il va falloir qu'on en mette tous un coup. Dans nos pays occidentaux, beaucoup d'employés s'arrêtent exagérément pour faire des pauses café ou des pauses cigarettes sur le compte de leur employeur. Ce manque de productivité a un coût qui affecte finalement toute la population. Le 8e commandement contient un message qui s'adresse à la fois au patron et aux salariés. Au premier, il recommande un salaire journalier équitable pour une journée de travail équitable. Aux autres, une journée de travail équitable pour un salaire journalier équitable. Ce principe va au-delà du vol entre les êtres humains. Les possessions de Dieu sont de loin immensément supérieures à celles de n'importe quel être humain. Agé 2, verset 8. Le vol envers Dieu. En parlant aux descendants modernes de Jacob, dont le nom est également Israël, Dieu déclare dans le livre de Malachie : Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez, et vous dites : En quoi t'avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. Malachie 3, verset 8. Dieu accuse l'humanité de tromper son Créateur et de spolier son œuvre. Rien d'étonnant que la véritable religion soit si peu répandue sur la terre aujourd'hui. Il n'est pas étonnant non plus qu'il y ait tant de confusion et de tromperie au sujet du christianisme. Dieu dit ensuite : Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 9 à 10. Voilà un défi lancé par Dieu à tous les hommes. Il affirme qu'il vous bénira si vous lui donnez la dîme, comme il ordonne, et si vous mettez votre foi en lui et en sa parole. Il est possible de citer des centaines de cas montrant que Dieu bénit toujours spirituellement et physiquement celui qui verse la dîme. Cela ne veut pas dire, pour autant, que Dieu le fera immédiatement. Vous devez toujours lui obéir et avoir foi en lui. De son côté, il accomplira sa promesse. Voici la lettre d'une personne qui a littéralement pris au mot la promesse divine. Il y a quelques semaines, ma situation financière était désespérante. Un jour, quelqu'un m'a donné 1 euro. Je fus tenté de garder la dîme pour moi. Mais finalement, je décidai de donner le 10e à Dieu. Quelques jours plus tard, je reçus 10 euros. Je fus encore tenté de garder la dîme pour moi, à cause de l'urgence de mes besoins. Et voilà que je viens de recevoir 200 euros. Je m'empresse donc de vous envoyer ma dîme. J'ai été fidèle comme Dieu l'a été envers moi. Que personne ne vienne me dire que Dieu ne tient pas parole. L'application possible du commandement. L'application précise et positive du 8e commandement est énoncée dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Éphésiens 4, verset 28. D'un côté, le vol est condamné dans ce passage, de l'autre, le fait de travailler en vue d'aider les autres est exposé comme étant la voie de vie, que l'application positive de ce commandement prescrit. Nous devons acquérir nos possessions au moyen d'un travail honnête, non seulement pour satisfaire des besoins et des nécessités d'ordre personnel, mais également pour aider ceux qui sont dans la gêne. Dans l'esprit de ce commandement, voler n'est pas seulement prendre à quelqu'un ce qui lui appartient, mais aussi refuser de travailler pour aider ceux qui sont dans le besoin. Dieu dit aux véritables chrétiens, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Romains 12, verset 13. Les enfants engendrés de Dieu sont appelés à lui ressembler. Matthieu 5, verset 48. Or, Jésus a dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Jean 5, verset 17. Et il a résumé la façon positive du 8e commandement, en déclarant, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, verset 35. Si par l'intermédiaire du Saint-Esprit, nous pouvons apprendre à vivre de cet enseignement, nous vivrons alors selon l'esprit du 8e commandement. Le 9e commandement. Nous vivons à une époque de corruption. C'est l'âge du mensonge sophistiqué et de la double norme morale. C'est l'âge des législateurs, des capitaines d'industrie, des officiels gouvernementaux et des professeurs d'enseignement, d'apparence respectable, qui parjurent à la barre ou même devant les parlements. Cet âge offre également le spectacle singulier de millions de gens qui croient à l'évolution tout en fréquentant des églises qui, tout au moins théoriquement, croient au Dieu créateur de la Bible. Le Christ a condamné les hypocrites de son époque. Que dirait-il de ceux de notre génération? Une société baignant dans le mensonge. Dans son livre intitulé « Sexe, vices et affaires », Monroe Fry parle de la latitude publique envers le vice lorsqu'il profite indirectement à ces respectables hommes d'affaires. Son livre montre ce que des milliers d'adultes cultivés savent déjà. Les dirigeants religieux et séculiers respectables sont souvent prêts à accorder leur aide à ceux qui vivent du jeu, de la prostitution et des stupéfiants, s'ils peuvent eux-mêmes en tirer profit. Aux yeux du public, ils passent pour être des exemples de vertu et d'honnêteté. Pour les mafieux en tout genre, ils ne sont que des dealers de l'ombre. Ils sont disposés à user de leur influence et de leur position afin d'organiser des filières du vice et du crime tant qu'ils peuvent en retirer un bénéfice. Pour parler franc, ils vivent dans le mensonge. On serait abasourdi d'apprendre à quel point la société chrétienne elle-même est fondée sur ce genre d'hypocrisie. Dans cette brochure, nous avons déjà vu que le plus grand péché de tous consiste à donner plus d'importance à quelqu'un ou à quelque chose plutôt qu'à Dieu. Cela mène automatiquement à l'idolâtrie, à blasphémer le nom de Dieu, à violer son sabbat et à déshonorer ses parents, à commettre le meurtre, l'adultère et le vol. Ce principe s'applique exactement au 9e commandement. Ce que déclare le 9e commandement. Dieu a dit, « Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. » Exode 20, verset 16. C'est seulement dans la mesure où il recherche la vérité et lui rend témoignage par ses actes, que l'homme peut connaître Dieu. La parole divine est la vérité. Jean 17, au verset 17. Le Christ a déclaré, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, au verset 6. Quels que soient ses autres défauts et faiblesses, si un individu est disposé à vivre sans mentir, sans dissimulation, à dire la vérité et à la reconnaître quand elle lui est révélée, il mérite le respect et toute l'aide nécessaire dont il a besoin afin de vaincre ses penchants charnels. La portée spirituelle du 9e commandement est immense. Les voies et les lois de notre Dieu créateur sont intrinsèquement droites. En conséquence, celui qui est honnête, qui ne veut pas mentir et qui veut comprendre la vérité lorsqu'elle lui est révélée, arrivera tôt ou tard à se convertir au véritable Dieu et à ses voies. En revanche, celui dont la parole ne vaut rien et qui a pour habitude de mentir aux autres et à lui-même finira par avoir un caractère tellement perverti qu'il ne parviendra jamais à comprendre la vérité divine. C'est pourquoi, bien qu'on puisse avoir des divergences d'opinion dans de nombreux domaines, il est essentiel de se décider à vivre et à parler selon la vérité. La société actuelle est de plus en plus pénétrée de formes variées, de contre-vérités et d'hypocrisie. Afin d'édifier en nous le caractère divin et d'hériter ainsi un jour la vie éternelle, nous devons considérer le 9e commandement dans ses diverses ramifications et apprendre à lui obéir. C'est en l'aidant à conserver sa réputation que le 9e commandement protège l'homme juste et honnête. Il n'y a peut-être pas de péché plus méprisable que celui qui consiste à calomnier, c'est-à-dire inventer un mensonge et le répandre dans l'intention de nuire au prochain. Un voleur prend des biens matériels qui d'ordinaire peuvent être remplacés, mais un faux témoin qui calomnie son prochain lui vole l'estime et la réputation qui parfois ne peuvent jamais lui être rendues. La valeur de l'honnêteté. L'avantage de pouvoir compter sur la parole d'un individu aurait pour effet non seulement de conserver intacte la réputation de tout homme honnête, mais aussi d'éliminer les innombrables heures perdues à établir la véracité de chaque déclaration et de chaque rapport. En même temps, cela empêcherait de nommer des hommes indignes à des postes élevés de responsabilité. Bref, cela aurait pour effet de nettoyer la société. De par le monde, il y a des dirigeants qui sont des fantoches et qui s'élèvent en promettant à leurs partisans quelque chose pour rien. Au moyen d'une propagande astucieuse, ils font croire au peuple ce qu'eux-mêmes savent être un mensonge. Et alors, ce sont l'incertitude, l'angoisse et des sentiments de frustration, jusqu'à ce que, finalement, un désastre frappe et que les circonstances dévoilent la vérité. Les nations démocratiques ne sont pas exemptes de cas de tromperie de la part de certains dirigeants de partis qui, par opportunisme, n'hésitent pas à faire naître la suspicion à l'égard de leurs propres amis politiques. Songez un peu de quelle façon fantastique le public en bénéficierait. Dans les domaines de l'industrie et des affaires, si chaque compagnie proclamait la vérité au sujet de ce qu'elle produit et si elle cherchait honnêtement à satisfaire aux besoins des consommateurs, pour peu que vous appliquiez ce principe à toutes les phases de la société, vous auriez quelque chose qui ressemblerait beaucoup à une utopie. Ce n'est pas là une suggestion tirée par les cheveux, comme on dit. C'est la bénédiction dont jouirait la société si elle obéissait vraiment au 9e commandement. En ce qui vous concerne, si votre désir est de vivre éternellement dans une société régie par Dieu, celui qui vous donne la vie et la respiration vous ordonne. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Ephésiens 4, verset 25. L'application du 9e commandement. La vanité est à la source du péché. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Ecclésiaste 1, verset 2. La raison pour laquelle la plupart des hommes rejettent Dieu, c'est qu'ils désirent être des dieux à leurs propres yeux, ainsi qu'à ceux de leurs semblables. C'est là encore une question de vanité. La racine de n'importe quel péché remonte finalement à cette cause. Ainsi en est-il également du mensonge, sous toutes ses formes. Les hommes mentent parce qu'ils se soucient davantage de leur amour propre et du sentiment de leur propre importance que du bien-être de leurs semblables. Ils profèrent des mensonges parce qu'ils craignent l'opinion des autres plus que celle de Dieu lui-même. Comme l'apôtre Jean l'a dit, ils aimèrent la gloire, l'approbation ou la louange des hommes plus que la gloire de Dieu. Jean 12 au verset 43. Souvent les gens éprouvent de la honte à propos de ce qu'ils appellent un échec dans une affaire ou encore au sens social de ce terme. Ils tricheront, falsifieront et mentiront afin de l'éviter ou tout au moins ils essaieront de le masquer. Du point de vue de ce qui est intrinsèquement juste et de celui des valeurs éternelles, la chose qu'ils devraient redouter, c'est le péché. En effet, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8 au verset 31. Jésus a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Matthieu 5 au verset 11. Nous ferions mieux, nous tous, de cesser de nous soucier tellement de ce que pensent des hommes mortels et de nous inquiéter davantage de ce que Dieu pense. Cela nous aiderait à ne pas recourir à l'hypocrisie, que ce soit dans les affaires ou dans la vie sociale ou politique, et même en matière de religion et de science. Rappelez-vous que c'est par l'intermédiaire du péché, du faux témoignage, du mensonge, que Jésus-Christ fut assassiné. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Marc 14, verset 56. Étant donné que les hommes, à cause de leur vanité, désirent croire ce qui est populaire sur le moment, ils en viendront à accorder créance à des théories religieuses et scientifiques, dépourvues de fondement. Dieu nous met en garde contre l'hypocrisie. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Romains 1 au verset 18. De nombreux hommes de science et des théologiens qui croient à la théorie de l'évolution devraient savoir à quoi s'en tenir. Mais ils préfèrent se conformer à ce qui plaît aux hommes. Ils vivent donc dans le mensonge. Selon la Bible, ils sont inexcusables, car ils nient que Dieu a littéralement créé l'univers et qu'il le gouverne. Verset 20. Ces hommes qui croient à la théorie de l'évolution inspirée par Satan ne divulguent pas toute la vérité. Certains savent beaucoup de choses qu'ils gardent pour eux-mêmes, mais ils préfèrent plaire à leurs semblables et mentent. C'est pour cette raison que Dieu a dit qu'ils sont inexcusables. On peut également mettre dans la même catégorie les ministres et les étudiants de la Bible qui enseignent et pratiquent les croyances et coutumes païennes, qu'ils savent issus de l'ancien paganisme et que la parole divine condamne. Dans bien des cas, ils en savent plus qu'ils n'en disent. C'est pour cette raison qu'ils sont inexcusables. L'enseignement continuel de tels mensonges, qu'ils soient de nature scientifique ou spirituelle, rend aveugle la plus grande partie de ce monde quant à la nature réelle de Dieu et de son véritable dessein ici-bas. Tant que nos dirigeants, forcément cultivés, continueront à se séduire eux-mêmes et qu'ils séduiront les autres au sujet de l'existence de Dieu, de son plan et de son dessein, notre civilisation sera condamnée. Vivez par la vérité. Apprenez combien il est important de dire la vérité, d'y croire et de vivre en conséquence. Prenez soin de ne pas fonder votre existence sur une série de mensonges, qu'il s'agisse de distorsions personnelles, politiques, scientifiques ou religieuses de la vérité. Rappelez-vous que c'est la vérité qui vous a franchi. Jean 8 au verset 32. Lors de vos conversations, surveillez avec soin vos paroles. Dites toujours la vérité. Rappelez-vous qu'un homme ne vaut pas plus que sa parole. S'il devient un menteur invétéré, on ne peut l'aider puisqu'on ne peut ni compter sur lui ni croire ce qu'il dit. L'une des qualités essentielles de Dieu est qu'il dit toujours la vérité. Si nous ne pouvions compter sur sa parole, nous n'aurions aucune assurance de pardon pour nos péchés, ni aide en cas de besoin, ni de récompense future, ni de vie éternelle. Avez-vous songé à cela? L'exacte antithèse du caractère divin est celui de Satan. Lorsqu'il, Satan, profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Jean 8 au verset 44. Un sort terrible attend ceux qui le suivent, dans son refus de vivre selon la vérité. Mais pour les lâches, les incrédules et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Apocalypse 21, verset 8. Aux yeux de Dieu, il n'existe pas de mensonge pieux ou blanc ou innocent. Un mensonge est un mensonge. Les demi-vérités, les distorsions et les tromperies sont condamnées dans sa parole. Jésus a dit « Ta parole est la vérité ». Jean 17 au verset 17. Efforçons-nous donc de vivre selon la vérité, afin que nous puissions hériter la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Le 10e commandement. D'après ce que révèlent les enquêtes, les soucis financiers qui harcèlent la plupart des familles ne sont pas dus principalement à des revenus trop modestes. Ils sont surtout causés parce que les gens, dans leur désir de s'offrir le surplus, dépensent plus qu'ils ne gagnent et parce qu'ils ont l'habitude d'acheter à crédit. Achetez maintenant, vous paierez plus tard. Entendons dire. Mais a-t-on vraiment besoin de ce qu'on achète maintenant et a-t-on la certitude d'être en mesure de payer plus tard? Une société basée sur la convoitise. Une publicité aussi persuasive qu'intense encourage les gens à vivre au-dessus de leurs moyens. Elle leur donne l'impression qu'ils sont vieux jeux ou dans leur tort, s'ils ne s'efforcent pas de rivaliser avec leurs prochains et s'ils ne convoitent pas les biens matériels que ce dernier possède. L'idée générale, c'est de se procurer tout ce qu'on peut pendant qu'il en est encore temps. L'incessante sollicitation dont on fait l'objet pour percer, ce qui d'ordinaire signifie acquérir plus d'argent et de biens matériels, est devenue une sorte d'idolâtrie. Elle aveugle l'esprit et le cœur de millions de gens. Avant de venir étudier chez les Blancs, j'étais un bon chrétien, a dit un Africain. Je rêvais de devenir un jour missionnaire médical. Maintenant, je suis athée. Lorsqu'on lui a demandé la raison, il a répondu « Depuis mon arrivée ici, je m'aperçois que l'homme blanc a deux sortes de dieux, celui qu'il nous a enseigné et un autre qu'il adore. Vous me dites que les doctrines tribales de mes ancêtres qui adoraient des statues et qui croyaient à la sorcellerie étaient erronées et ridicules, mais ici vous adorez des idoles de plus grande taille, des automobiles et des appareils électriques. Franchement, je ne vois pas la différence. Et pour cause, la plupart des gens sont tellement habitués à vivre dans le péché qu'ils ne le discernent même plus. Nous vivons dans une société censément chrétienne, mais elle est, en réalité, fondée sur la convoitise et la concupiscence. Les efforts frénétiques des gens pour rivaliser et dépasser les autres sont la source non seulement de la plupart des problèmes d'ordre financier, mais encore la cause de nombreuses maladies physiques et mentales. Il en résulte un grand nombre de foyers brisés et de vies frustrées. Le plus grave, en l'occurrence, est que cette forme d'idolâtrie ne laisse aux gens presque pas le temps ou le désir de vouloir connaître le véritable Dieu, dont les lois vivantes et les voies sont les seules à procurer la paix intérieure et la joie réelle. Ce que déclare le 10e commandement. La plupart des gens ne réalisent pas que les 10 commandements sont l'énoncé de lois vivantes et dynamiques au même titre que la loi de la pesanteur. Ce sont des lois dont les effets sont automatiques. Lorsque vous les transgressez, elles vous brisent. Il en est de même en ce qui concerne ce 10e commandement. Et l'amende en cas de transgression devra tôt ou tard être payée. Dieu a dit « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Exode 20, verset 17. De tous les commandements, le 10e se rapporte plus particulièrement au rapport entre les hommes. La force de ce commandement réside dans les mots « ton prochain » et qui appartiennent à ton prochain. Il n'y a rien de mal à désirer en toute légitimité une épouse, un serviteur, un bœuf ou un âne, mais non pas ceux de votre prochain. Et lorsque l'objet admiré est au-dessus des moyens de l'individu, cette admiration, qui se confond avec le désir de posséder, transgresse le commandement. Les exigences spirituelles de ce commandement sont, à certains égards, plus rigides que celles des autres commandements, car celui-ci réglemente même nos pensées. Souvent, on ne considère le péché que comme une chose physique. On ne se rend pas compte que le caractère saint que Dieu envisage en nous exige également que nos pensées soient purifiées. Les actions suivent les pensées. Nous sommes ce que nous pensons. Si secrètement vous rejetez la norme de Dieu et sa voix, si vous convoitez ce que vous ne pouvez pas posséder ou ce que vous ne possédez pas légitimement avec la bénédiction divine, alors cette rébellion mentale donnera naissance à un péché. Ce commandement va au-delà du christianisme superficiel et permet de voir si un homme a réellement soumis sa volonté à son Créateur. C'est là où le 10e commandement intervient. Il montre l'autorité divine sur nos pensées les plus intimes. Il nous enseigne à penser comme Dieu, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 5. Par l'intermédiaire de l'Esprit divin, nous devons soutenir le combat de la foi, nous débarrasser de la nature qui convoite en nous et réussir, en fin de compte, à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, verset 5. Tel est le but ultime du véritable chrétien. Cet objectif devra être atteint au moment de la résurrection. Dans la vie présente, nous devons croître dans le caractère divin. Nous avons besoin d'apprendre comme le firent des justes tels qu'Enoch, Noé, Abraham et d'autres serviteurs du Très-Haut, à marcher avec Dieu. Nous devons suivre sa voie, l'imiter, penser comme lui. Toutefois, l'esprit naturel de l'homme est rempli d'égoïsme, de vanité, d'esprit, de compétition, de convoitise, de haine et de concupiscence. C'est un esprit qui est retranché des voies et des pensées de Dieu. Ésaïe 55, versets 8 et 9. C'est pourquoi notre esprit a besoin d'être changé, converti et purifié. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Où en sommes-nous? Le rythme de la vie s'est accéléré dans nos sociétés occidentales, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale. Nous voulons en général gagner plus d'argent. Nous sommes pressés de passer du bon temps et de tirer tout ce que nous pouvons de la vie. De tous côtés, on nous enseigne à rivaliser avec nos semblables. Nous en sommes venus à désirer ardemment, au sens propre de ce terme, des superfluités matérielles qui, dans certains cas, étant inconnues il y a encore 2 ou 3 générations, on nous pousse à dépenser plus que ce que nous gagnons et à nous amuser toujours davantage. Une publicité habile nous fait croire que nous le devons à nous-mêmes. Elle nous fait accepter l'idée que nous serions stupides de ne pas acheter une voiture plus puissante, de ne pas manger dans un restaurant plus coûteux ou de ne pas entreprendre des voyages plus longs et plus onéreux. L'accent est porté sur le moi et sur le fait de se procurer. Sur la scène internationale, les gens combattent et tuent à cause de cette attitude de cœur. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Jacques 4, versets 1 et 2. Bien souvent, le patron désire plus d'argent qu'il ne peut s'en procurer en versant de faibles salaires. Aussi vole-t-il ses employés ou ses ouvriers en les rémunérant insuffisamment. Et ne se consacre-t-il que des sommes insuffisantes à s'améliorer les conditions et la sécurité du travail. De même, le travailleur moderne apprend à convoiter plus d'argent qu'il ne peut honnêtement en gagner. Souvent habilement manipulé et trompé de l'extérieur, il convoite une rémunération qu'il n'a pas légitimement méritée. Pourquoi de nombreux auteurs écrivent-ils des romans à bon marché fondés sur des obscénités, des saletés, ainsi que sur des stupidités qui manquent de maturité? Pourquoi certains éditeurs impriment-ils des ouvrages de ce genre qui avilissent l'amour, la bonté et l'idéalisme, ravalant les émotions humaines à un niveau plus bas, à celui de brutes stupides? Dans notre société, il existe des centaines d'autres exemples de convoitises, mais soyez disposés à discerner surtout votre propre convoitise, à vous en repentir et à demander à Dieu l'amour et la force nécessaires pour la vaincre. Notre génération a besoin d'entendre ces paroles du Christ. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Luc 12, verset 15. Notez bien cela. La véritable réussite et le véritable bonheur ne consistent pas à être estimés d'après la nouveauté ou la puissance de la voiture qu'on conduit, le genre de maison dans laquelle on demeure, les vêtements que l'on porte ou même la nourriture que l'on mange. Le bonheur est un état d'esprit. Il résulte du fait que l'on a l'esprit et les pensées du Christ en soi-même. Jésus a dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Luc 9, verset 58. L'amour, la joie et la paix dont Jésus a donné l'exemple viennent du fait de donner et de servir, et non point d'une chose matérielle quelconque qu'il était en mesure de se procurer. Jésus a été capable de vaincre la vanité et la convoitise humaine, parce qu'il a cherché avant tout à servir Dieu. Après avoir indiqué comment les gens non convertis recherchent les nécessités et le confort matériel, il a ordonné. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, au verset 33. Un lien commun. Parvenu à ce point, nous constatons que le dernier commandement rejoint le premier. En effet, quelle que soit la chose que vous recherchez, si elle est contrainte à la volonté divine, vous la convoitez. Si dans votre esprit et dans votre cœur, vous désirez ardemment quelque chose, plus que vous ne désirez obéir au Créateur, cette chose devient pour vous une idole. La cupidité qui est une idolâtrie, Colossiens 3 au verset 5. Tout ce que vous idolâtrez, vous le mettez à la place du véritable Dieu, et vous transgressez ainsi le premier commandement. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Exode 20, au verset 3. L'apôtre Paul a dit, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Romains 6, au verset 16. Lorsque vous convoitez des choses matérielles, vous les servez, vous y consacrez votre temps, votre énergie et votre argent. Elles deviennent littéralement votre Dieu. En effet, en les servant et en les adorant, en quelque sorte, vous ne trouvez ni le temps ni l'énergie d'étudier la Bible, ou de prendre une heure tout le matin pour prier celui qui vous accorde la vie et le souffle. Il est possible également que vous deveniez avare et jaloux de l'argent que vous devez à votre Créateur, pour financer la proclamation de sa vérité. C'est ainsi que les choses matérielles que vous désirez, en les convoitant, peuvent finalement devenir votre Dieu. En effet, en les servant et en les adorant en quelque sorte, vous ne trouvez pas le temps de servir le véritable Dieu de toute votre force, de tout votre cœur et de tout votre esprit. La convoitise est une chose terrible. Elle vous retranche de l'amitié, des bénédictions et de l'amour du Créateur suprême qui a fait tout ce qui existe, dans l'intention que la création fût utilisée pour son service et pour sa gloire. La convoitise transgresse le principe fondamental de la façon de vivre qui est énoncé par tous les commandements divins. Jésus a résumé ce principe en disant « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Acte 20, verset 35. En apprenant à servir votre semblable avec amour et sincérité et à adorer le véritable Dieu, vous découvrirez l'unique façon de donner un sens réel à votre vie et vous connaîtrez la joie dans le monde demain. Vous hériterez la vie éternelle dans la gloire après l'établissement littéral du gouvernement de Dieu sur la terre. Ce gouvernement sera fondé sur les 10 commandements institués par Dieu afin de régir les rapports des hommes entre eux-mêmes et avec lui en adorant et en louant l'auteur de cette loi donnée pour notre bien éternel. Les nouveaux commandements de Jésus. Certains enseignent que Jésus-Christ aurait en quelque sorte donné des commandements nouveaux pour remplacer la loi de son Père. Où est la vérité? Doit-on encore obéir aux 10 commandements? Nous vivons à une époque de rébellion contre toute loi et contre toute autorité. Des nations et des gouvernements sont renversés. Des foyers et les instances éducatives sont au bord du chaos à cause de toutes sortes de rébellions. La réaction révélatrice de la nature humaine à la phrase de la prière du Seigneur « Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite » fut bien décrite. Il y a plusieurs années par un ministre de l'Ohio lorsqu'il écrit « Nous n'avons pas l'intention d'appliquer cela, nous n'aimons pas l'autorité, nous ne voulons pas céder facilement, même au roi des cieux. Il est manifeste que la plupart des gens pensent plutôt que ton règne ne vienne pas, que ma volonté soit faite. » Les 10 commandements sont-ils abolis? Dans les chapitres précédents, nous avons vu comment appliquer les 10 commandements en tant que loi vivante et active dans les différents aspects de notre vie personnelle. Mais à l'heure actuelle, un grand nombre de ministres du culte et d'enseignants de la Bible prétendent erronément que les 10 commandements sont abolis ou qu'ils sont remplacés par les nouveaux commandements de Jésus. Quels sont ces nouveaux commandements? Se substituent-ils ou contredisent-ils les 10 commandements? Que révèle la Bible sur ce point important? Premièrement, notez qu'il fut l'un des buts principaux pour lesquels Jésus-Christ vint sur terre, dans la chair humaine. Ésaïe prophétisa au sujet de Jésus. Mais à cause de son salut, l'Éternel a voulu rendre sa loi magnifique et sublime. Ésaïe 42, verset 21. Nous voyons ici que le Christ n'est pas venu abolir la loi. Il est venu l'amplifier pour la rendre magnifique. Version la Bible du Semeur. Rendre magnifique et sublime signifie le contraire de changer ou d'abolir quelque chose. Cela veut dire révéler dans les moindres détails, élargir. C'est précisément cela que Jésus a fait avec la loi de son Père, comme en témoignent les exemples de sa vie et sa prédiction. Jésus a dit, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Matthieu 5, verset 17. Jésus s'est conformé exactement à ce qu'il avait déclaré, à la fois par son exemple, et par sa prédiction. Il a accompli la loi, il la sublima, il l'accomplit intégralement, non seulement à la lettre, mais également au-delà, afin d'observer dans les moindres détails l'intention spirituelle et le but de la loi parfaite de son Père. Personne ne peut insinuer que le Christ aurait pu substituer les traditions humaines aux commandements divins. Il obéit aux 10 commandements, à la lettre et en esprit. Il les enseigna et il en fit son mode de vie. Jésus a dit, « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, y compris les plus petits commandements, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Matthieu 5, verset 19. Nous devrions désirer être grands dans le royaume de Dieu. Nous devrions nous efforcer de vaincre le mieux possible afin d'avoir l'occasion de servir le plus possible. En conséquence, nous devrions sincèrement et avec enthousiasme appliquer et enseigner jusqu'au plus petit commandement divin. Pensez-vous que le commandement du sabbat soit petit? Si telle est votre opinion, vous feriez mieux de changer d'idée et de le respecter comme Dieu l'a ordonné. En suivant le parfait exemple du Christ qui considérait comme saint le septième jour de la semaine et non pas le dimanche qui est le jour du soleil. Le chemin de la vie éternelle. Lorsqu'un jeune homme vint lui demander quel était le chemin de la vie éternelle, Jésus dit, « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Matthieu 19, verset 16 à 18. Le jeune homme répliqua, « Lesquels ?» La réponse de Jésus fut, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. » Puis il cita une liste reprenant quelques-uns des 10 commandements. Jésus-Christ connaissait le chemin du salut. Il dit que ce chemin était celui de l'obéissance à la loi de Dieu le Père et la soumission à sa volonté. Jésus déclara, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 7, verset 21. Loin de les abolir, Jésus obéit aux 10 commandements. Jean 15 au verset 10. Le Christ fut la lumière que Dieu envoya dans le monde, afin de montrer aux hommes comment vivre. Après sa mort et sa résurrection, le Christ missionna ses apôtres en leur donnant cet ordre. Allez, faites de toute la nation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28 au verset 19 et 20. Les apôtres étaient présents lorsque le Christ dit au jeune homme, « Observe les commandements. » Il l'avait entendu magnifier les commandements divins au cours de ce que l'on a appelé le sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7. Les apôtres avaient été les témoins de l'obéissance du Christ aux 10 commandements et savaient qu'il était, lui, un exemple parfait. En conséquence, lorsque Jésus-Christ les envoya vers toutes les nations avec l'ordre de leur enseigner tout ce qu'il leur avait prescrit, aucun d'eux n'eut le moindre doute que les 10 commandements divins en faisaient partie. L'obéissance aux 10 commandements fut le véritable fondement de l'enseignement du Christ et des premiers apôtres. Mais que penser des nouveaux commandements de Jésus? Ne devait-il pas changer ou abolir l'observance littérale des 10 commandements? Révélé dans l'Ancien Testament, un nouveau commandement. Tout compte fait, en dépit de ce que la plupart des gens pensent, il n'y a qu'un seul endroit dans la Bible où Jésus annonce qu'il prescrit un nouveau commandement. Les autres références d'après l'apôtre Jean découlent d'un même principe que nous allons examiner. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, verset 34 et 35. Jésus donna ce nouveau commandement au cours de la dernière nuit de sa vie physique sur terre. Par sa prédication et par son exemple, il avait déjà montré à ses disciples que l'observance aux 10 commandements était simplement une façon d'exprimer l'amour. Nous exprimons un amour réel envers Dieu lorsque nous l'adorons et que nous lui obéissons, sans tolérer que d'autres dieux, des idoles, des images ou quoi que ce soit d'autre viennent prendre sa place. En honorant toujours son nom et en observant d'une manière sainte son sabbat, lors du septième jour de la semaine, comme Jésus et les premiers apôtres l'ont toujours observé. Et nous faisons preuve d'amour autour de nous lorsque nous obéissons aux ailes et aux six derniers commandements. Le Christ avait déjà résumé la loi divine par ces deux grands principes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, verset 37 et 39. En fait, dans la dernière partie de ce résumé de la loi divine, Jésus cite directement l'Ancien Testament, Lévitique 19 au verset 18. Qu'avait-il donc de si nouveau dans le commandement de Jésus d'aimer notre prochain? La réponse est toute simple. Le principe qui consistait à aimer notre prochain n'était pas nouveau, mais l'amplification donnée à ce principe par Jésus à la lumière de son exemple d'une vie parfaite jette un nouvel éclairage sur l'intention spirituelle et sur la profonde signification de ce commandement. Souvenez-vous de l'instance de Jésus sur ce point. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. L'exemple parfait d'amour et de service de Jésus fut porté au niveau le plus élevé, qui soit envers le prochain. Comme cela est requis par Dieu, dans sa vie, Jésus démontra comment cet amour doit s'exprimer jour après jour. Comment doit-on aimer notre prochain? Par trois fois, la voix divine rompit le silence habituel des cieux pour proclamer l'appréciation de Dieu envers la vie de Jésus. Même le proconsul romain, Ponce Pilate, déclara « Je ne trouve en lui aucun crime. » Jean 19 au verset 4. C'est parce que Jésus vivait une existence de don envers les autres. Que ce soit en enseignant les gens, en guérissant les malades, en nourrissant la foule affamée ou en s'humiliant pour laver les pieds des disciples, il donnait toujours de sa promesse. Ce même Jésus-Christ s'adressait pourtant aux dirigeants religieux de son époque, en des termes assez forts. « Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne ?» Matthieu 23, verset 33. Ces mots ne sont-ils pas étranges dans la bouche d'un homme rempli d'amour? Non, ils sont la manifestation de l'amour parfait lorsqu'il faut parfois dire ou prendre des décisions qui, sur le moment, ne font pas plaisir, mais qui sont nécessaires pour le bien d'autrui. Jésus aimait ses pharisiens. C'était par amour qu'il les invectiva pour les secouer de leur hypocrisie et de leur perversité religieuse, dont ils étaient coupables. Souvenez-vous que ce fut par l'intermédiaire de ces mêmes pharisiens que Jésus mourut, et pourtant ce fut pour eux et pour ceux qui leur ressemblaient que Jésus pria en ces termes, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. C'est également à cause de cet amour parfait et bienveillant que Jésus se retirait occasionnellement de la foule pour se reposer, pour méditer ou pour prier. Il savait en effet que ce n'était qu'en restant proche du Père et en acceptant d'être un instrument entre ses mains que sa présence humaine et sa prédiction pourraient enrichir la vie des autres. Jésus ne se contentait pas simplement d'agir en aimant les autres, il les aimait d'un amour parfait. Grâce au Saint-Esprit de Dieu qui était en lui, il désirait de tout cœur aimer et servir les autres pour leur plus grand bien. Jésus vivait littéralement d'après les paroles que l'apôtre Paul exprima plus tard. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, verset 35. De cette manière, son commandement de nous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé est devenu un commandement nouveau et plus élaboré dans nos rapports humains. Jésus a-t-il littéralement obéi aux 10 commandements? Beaucoup de personnes pieuses pensent que Jésus avait dans le cœur une sorte d'amour sentimental, mais qu'il n'obéissait pas vraiment aux commandements divins, d'une manière littérale. En réalité, Jésus, Christ, gardait et observait chacun des 10 commandements à la lettre et en esprit exactement comme ses disciples doivent encore le faire à notre époque. Comme nous l'avons déjà lu, il déclara qu'il avait obéi aux commandements de son Père. Jean 15, verset 10. Il est tout à fait clair que Jésus-Christ n'a jamais eu un autre Dieu devant la face du véritable Dieu. Il n'a jamais été idolâtre et n'a jamais blasphémé le nom de Dieu. Jésus a respecté le sabbat que Dieu avait déclaré saint. Il se rendait régulièrement au culte à la synagogue durant ce jour, selon sa coutume, Luc 4 au verset 16. Jésus honora ses parents et ne tua jamais personne. Il ne commit ni adultère, ni vol, ni mensonge, ni convoitise. Il établit un exemple à notre intention afin que nous l'imitions en marchant dans ses pas. 1 Pierre 2 au verset 21. Aujourd'hui, le véritable chrétien est quelqu'un qui est soumis à Dieu, au point que le Christ vit sa vie en lui, en le guidant par le Saint-Esprit, selon ce qu'a déclaré l'apôtre Paul. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, du, selon la version originale, Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates 2, au verset 20. Le véritable chrétien ne doit pas se contenter d'avoir la foi en Christ, mais il doit vivre selon la foi du Christ qui se trouve en lui grâce au Saint-Esprit. Le Christ, par l'Esprit, doit vivre littéralement dans le véritable chrétien. Notez qu'aujourd'hui, le Christ veut vivre la même vie en nous qu'il y a 1900 ans, lorsqu'il était dans la chair, en nous laissant un exemple à suivre. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Hébreux 13 au verset 8. Dans son corps humain, Jésus a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 4, verset 15. Oui, il fut effectivement tenté, mais au cours de sa vie terrestre, il obéit aux 10 commandements. En guidant actuellement ses véritables disciples par le Saint-Esprit, il continue à observer les commandements en eux. C'est l'amour du Christ et sa force en nous qui nous permettent d'observer la loi divine spirituelle, car Jésus-Christ a obéi à Dieu, le Père, et il continue à le faire. L'apôtre Jean a-t-il donné un nouveau commandement? Dans la deuxième épître de Jean, l'apôtre que Jésus aimait, nous trouvons également une référence à un nouveau commandement. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. 1 Jean 2 verset 7 à 9. Ici l'apôtre Jean fait d'abord référence à la parole divine que les gens de l'époque connaissaient déjà. Ensuite, il mentionne quelque chose de nouveau. Il explique qu'il s'agit de l'amour spirituel profond que les frères en Christ devraient avoir les uns pour les autres. Dans cet amour, il n'y a tout simplement pas de place pour la haine, l'envie ou la malice. Réfléchissez un peu. Est-ce que cet amour chrétien annule ou change les 10 commandements de Dieu? Bien sûr que non. Il souligne et amplifie l'amour personnel que les chrétiens doivent avoir pour les autres. Cet amour va au-delà de la lettre des 10 commandements, mais cela ne signifie pas qu'il les remplace. Comme l'apôtre Jean a décrit dans sa deuxième épître, et maintenant ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. 2 Jean 5, 6. Ici, l'apôtre Jean dit que l'amour chrétien consiste à garder les commandements. Il ne suffit pas d'aimer ceux qui aiment Dieu et le Christ. Nous devons aimer la voie, le caractère qui s'exprime dans les 10 commandements. Le Christ ne s'est pas contenté d'enseigner l'obéissance aux 10 commandements. Il les pratiquait. En fin de compte, l'apôtre Jean ajoute, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point de Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Verset 9. Ce que les nouveaux commandements nous enseignent. Lorsque nous examinons le côté positif des nouveaux commandements, nous nous rendons compte qu'ils ne font que renforcer et rendre plus exigeants ceux de l'Ancien Testament. Ils accentuent la voie de l'amour, du don, de l'altruisme, qui ne peut être atteint que par le Christ vivant en nous. Nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres, de façon désintéressée, comme Jésus nous a aimés. Cela est la doctrine du Nouveau Testament. Elle est de loin beaucoup plus exigeante que la lettre des commandements exposés dans l'Ancien Testament. Mais elle ne les remplace pas. Au contraire, elle est sublime pour leur donner toutes leurs dimensions spirituelles. Quant aux nouveaux commandements, ils se réfèrent à la façon parfaite dont le Christ les a observés durant sa vie. Jésus-Christ a littéralement et spirituellement obéi aux 10 commandements. Il est notre lumière et notre exemple. En décrivant le principe d'après lequel nous devrions aimer notre prochain, l'apôtre Paul a déclaré « L'amour est donc l'accomplissement de la loi » Romains 13 au verset 10. « Car l'amour spirituel divin coule dans le lit de la rivière ou le canal des 10 commandements. » En obéissant parfaitement aux 10 commandements, dans tous leurs aspects, la vie de Jésus fut rayonnante d'amour et l'amour est l'accomplissement de la loi. Le nouveau commandement qu'il donna attire l'attention sur son exemple parfait d'obéissance au Père et à sa bonté pour tous les hommes. Des millions de prétendus chrétiens ont appris que tout ce qu'ils avaient besoin de faire consistait à aimer Jésus ou à avoir l'amour de Dieu. Qu'est-ce que cet amour? Comment Dieu lui-même nous recommande d'exprimer son amour? À la fin de l'ère apostolique, des dizaines d'années après la résurrection de Jésus, Dieu inspira l'apôtre Jean, l'ami du Christ, le plus intime parmi les apôtres, a écrit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » 1 Jean 5 au verset 3. Souvenez-vous que Jésus a appliqué la loi divine dans tout ce qu'il pensait, disait et faisait. En tant que créature humaine, personne n'est capable d'observer la loi divine à la perfection. Mais la loi divine doit être notre modèle d'existence. La Bible nous commande de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre 3 au verset 18. C'est-à-dire copier notre vie sur celle du Christ et nous en approcher de plus en plus parfaitement d'année en année. Puisse Dieu vous aider à suivre l'exemple de son Fils en obéissant à sa loi. Et puissiez-vous, en étant soumis et obéissant, développer le véritable caractère de Dieu. Que par sa miséricorde, à travers le sacrifice du Christ et l'abandon total de votre vie au Christ, vous puissiez vivre sa vie d'obéissance par son Saint-Esprit, afin de parvenir à la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Fin.